patience, my friend.
Afraid, are you?
This station is being brought to you via Nullsoft Shoutcast streaming technology. For more information, visit shoutcast.com.
Bonjour, je suis Patrick Giraud, responsable du Lucasfilm Magazine, le magazine officiel de Star Wars en France, et vous êtes sur Star Wars en direct.
Legends Action Figures, l'endroit par excellence au Canada pour vos figurines et produits dérivés de Star Wars. www.legendsactionfigures.com.
Toy Palace est le seul arrêt pour vos produits dérivés de Star Wars. Vous y retrouverez toutes les collections Hasbro de Power of the Force 2 jusqu'à la récente collection Original Trilogy, ainsi que de nombreux produits d'autres licenciés Star Wars, tels que Atacus, Master Replica, Code 3, Gentle Giant. Branchez-vous et faites l'expérience de l'achat en ligne chez Toy Palace, le numéro 1 d'Europe pour les produits dérivés de Star Wars. www.toy-palace.com.
Cyclan.net, c'est les toutes dernières actualités sur l'univers Star Wars. Plusieurs dossiers sur la saga. Des événements et rencontres entre fans. Un énorme forum de discussion. Une radio web à contenu 100% Star Wars, incluant une ligne ouverte en direct. Plusieurs concours ouverts au Québec et en Europe. Et bien plus encore. Ne résistez pas à la tentation du côté obscur. Cliquez sur le www.cyclan.net.
Star Wars en direct est une présentation de SimpleNet. Avec SimpleNet, obtenez à moindre frais une vitrine publicitaire pour votre compagnie ou tout simplement un espace pour héberger votre site personnel. Rejoignez-nous au www.simple-net.ca.
Transmissions.
A communications disruption can mean only one thing.
Here they come.
The coordinates have to mean it's pulling us in.
You may fire when ready.
Commence primary ignition.
Bienvenue tout le monde à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars. Mon œil lunatique, je suis en compagnie bien entendu de Sébastien. Comment ça va? Ça pourrait aller mieux.
J'ai connu des meilleurs week-ends.
En effet, aujourd'hui le sujet principal va être consacré au fan film L'Ordre Sith. Il y a une bande-annonce qui est disponible sur leur site officiel et un autre vidéo qui a été présentée à différentes conventions. Qui c'était assez hallucinant quand même. Ensuite, notre sujet secondaire, si on a le temps, bien entendu, parce que tout va dépendre de si on parle avec beaucoup de gens sur le chat. Exactement. Non, mais si on parle comme sujet secondaire,
okay.
Si on parle à beaucoup de gens, on n'aura peut-être pas le temps de passer l'entrevue avec Michael Reeves et la traduction. Donc, ça serait ça le sujet secondaire, tout dépendant du temps qu'on va avoir de disponible. Comme d'habitude, les chroniques hyperespace, chroniques événements, on va vous faire la critique de Alien vs Predator, qui est un très bon film. Comment nous rejoindre, c'est comme d'habitude à studio A commercial SW en direct.com, studio A commercial SW en direct.com, par MSN Messenger, rajoutez l'usager swendirect@hotmail.com, swendirect@hotmail.com, et puis vous pouvez nous envoyer vos questions, peu importe par là, vos numéros de téléphone aussi si vous voulez qu'on vous appelle. Et puis vous pouvez nous rejoindre dans la salle de chat qui est un lien de notre menu principal sur notre site www.swendirect.com. Par rapport aux questions pour l'ordre site, si vous avez des questions plus particulières, allez dans la salle de chat My Room 2 en bas sous les pseudos de tout le monde et puis laissez vos questions dans ce forum là, ce chat là plutôt. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, on va y aller immédiatement avec la critique de Alien vs Predator. Moi, j'ai un texte écrit, je peux le lire, mais tu pourras rajouter après.
Je t'en prie, fais.
C'est bon? Alors, je commence. Alien vs Predator. Bon, encore une fois, on a eu la chance d'aller voir le film avec des billets gratuits. Merci Groupe Popcorn et Sébastien qui réussit toujours à nous en avoir.
Merci cette fois pour faire autant de publicité pour les films.
Bon. évidemment, ceux qui ont été à notre sortie de la ronde ont eu la chance d'avoir des billets, n'est-ce pas? Donc, quand vous venez à nos sorties, on ne sait jamais qu'est-ce que vous pouvez
qu'est-ce que vous courez la chance d'avoir comme cadeau. Exactement. Surprise, ou s'il y en a ou pas, là, c'est tout le Exactement. Temps un concours de circonstances.
Exactement. Évidemment, qu'est-ce qui était le fun, c'est qu'étant donné que Citlin est encore commanditaire de l'événement, ils nous ont encore mentionné en avant au début, n'est-ce pas? Et puis on a encore été criés comme des malades, là, encore une fois.
C'est toujours intéressant de voir la réaction des gens dans la salle quand on mentionne notre nom.
Oui, exactement. Bon, au départ, la série Alien vs Predator, qui était un roman, des comics et puis un jeu vidéo, a découlé d'une scène précise du film Predator 2. Où dans le vaisseau de ces derniers, on voit un mur rempli de trophées de chasse, incluant un crâne d'Alien. Comme de quoi deux petites secondes dans un film peuvent en inspirer plusieurs. Bon, ce que j'ai pensé du film au départ, j'avais aucune attente face à ce film, et je croyais même que ce serait un flop total, un genre de sequel manqué comme beaucoup de films hollywoodiens. Eh bien, je me suis trompé. J'ai énormément aimé ce film, car au-delà de l'histoire qui est plutôt simpliste et moche, ce film est du divertissement pur et simple qui mélange l'archéologie et la science-fiction. J'ai tout de suite pensé à Stargate en voyant ce film-là, mais où les humains tombaient dans un univers où les protagonistes sont les armées et dangereux prédateurs face aux agiles et dégoulinants aliens. Il y a autant de bave que dans tous les autres films d'Alien. L'histoire débute alors qu'un satellite de la compagnie de technologie Wayland Industries détecte une source de chaleur en Antarctique qui se révèle être une pyramide avec architecture combinée de plusieurs anciennes civilisations. Le richissime propriétaire de la compagnie Charles Bishop Wayland, celui-là même qui donna son visage au droïde Bishop de Aliens, le deuxième film, entreprend d'être le premier à découvrir et documenter cette pyramide. Grâce à sa fortune, il engage donc une équipe d'experts pour l'expédition vers l'étrange pyramide. Ce qu'ils ne savent pas est que cette pyramide est un lieu de chasse pour les jeunes prédateurs qui veulent devenir des guerriers. L'émission de chaleur de la pyramide, qui a été détectée par le satellite, est là spécifiquement pour attirer les humains afin qu'ils soient porteurs d'un alien. Afin qu'ils soient porteurs d'un alien que les prédateurs chasseront par la suite pour leur rite de passage. Autrement dit, les aliens sont. Les humains sont là juste pour être des porteurs, dans le fond. Là. Ensuite, vous pouvez déjà déduire que peu d'humains vont survivre au film, déjà en partant. Donc, je vous raconterai pas l'histoire en tant que telle, car il y a certaines surprises. Mais pour ceux qui ont lu les comics de Alien vs Predator, vous y verrez des similitudes et des correspondances avec l'héroïne du film. Aussi, la fin du film indique qu'il y aurait une suite, car la scène finale indique l'événement qui débutera la grande guerre de la BD. Alien vs Predator, tel que la bataille de Genesis était le début de la guerre des clones pour Star Wars. J'ai hâte de voir s'il va y avoir une suite, s'il y en a une. Là, ça risque d'être relativement bon. Ensuite, ce film n'est pas un film d'acteur, vraiment pas. Les performances sont bonnes, mais sans plus. Un peu normal quand le public attend les confrontations entre Alien et Predator. C'est pour ça qu'on va voir le film, dans le fond, un peu. Et puis c'est quand même des vraies bonnes confrontations. La foule est facilement emportée à encourager les prédateurs et à acclamer leur victoire et bon coup face aux méchants aliens. Les combats sont originaux et utilisent vraiment les atouts et avantages de chacun. Par exemple, un alien qui se sert de son sang acide pour se défendre. C'est pas bête du tout. L'ambiance est empruntée des films de Alien, c'est-à-dire toujours sombre visuellement et où la tension est à couper au couteau. Les effets spéciaux sont très bien réussis, mais ce qui est bien dans ce film, c'est que les prédateurs aliens n'ont pas tout été faits en CGI, en graphique par ordinateur, et de nombreux costumes et animatroniques ont été utilisés dans ce film. Même chose pour les décors et utilisation de maquettes. Un retour en arrière qui n'affecte pas du tout la qualité du film. Il y a aussi quelques références au film. Celle que je me souviens le plus est lorsque le propriétaire Charles Bishop Whalen joue à piquer un crayon entre chacun de ses doigts de la même façon que l'androïde Bishop faisait avec un couteau dans le second Alien. J'ai aussi vu une similitude avec une certaine scène avec celle de Return of the Jedi lorsque le Millennium Falcon s'échappe de la seconde Death Star avec l'explosion aux fesses. N'est-ce pas, Seb?
Tout à fait. Il y a aussi le directeur du film, c'est Paul W.S. Anderson. C'est lui qui avait fait le film, qui avait dirigé le film Resident Evil.
Ok.
Et il y a un acteur de Resident Evil que vous reconnaîtrez quand vous irez voir le film. Remarquez la façon de laquelle il va mourir dans Alien vs Predator et de la façon dans laquelle il est mort dans Resident Evil.
J'ai même pas remarqué.
Il y a une grosse similitude.
Tu raconteras ça hors d'onde.
Oui, tout à fait. J'ai pas de spoiler.
Pour finir, qui gagne cette confrontation entre les aliens et les prédateurs? Ben, je vous laisse le découvrir. On vous dira pas qui quand même, c'est le but du film.
Exact.
Ce film est un bon divertissement malgré sa courte durée. Il dure seulement 90 minutes. Et puis, c'est un film qui mérite définitivement d'être vu au grand écran. Donc, moi, j'ai donné 8 sur 10 à ce film.
D'accord.
Voilà.
Je trouve aussi que
c'est un... choses à rajouter.
Je trouve aussi que c'est un film qui mérite d'être effectivement vu au grand écran. Si vous désirez pas payer le plein prix pour aller le voir, vous allez peut-être manquer quelque chose. Vous pouvez peut-être aller voir en matinée quand même avec plus de tranquillité. Présentement, le décompte se fait toujours sur le site avp-movie.com pour qui va gagner entre le Alien et le Prédateur. Et l'Alien est en train de perdre avec 200 000 voix de moins que le Prédateur.
Mais c'est étrange parce que là, le film est sorti, donc j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui savent le résultat.
Exactement.
Peut-être qu'ils ont fait, parce qu'il y avait une grosse avance du Prédateur avant la sortie du film, ça s'est peut-être rattrapé, peut-être pour compenser, ou je sais pas trop. Là.
Un peu, je sais pas. Mais j'invite les Européens qui où le film n'est pas encore sorti chez vous, là, allez voter quand même, parce que ça peut être drôle. Et très sincèrement, je suis très content du résultat du film. Moi, je trouve qu'ils ont vraiment bien amené ça. Ils laissent la porte ouverte pour une suite. Mm-hmm. Mais je veux dire, ils laissent la porte ouverte de la même façon, laisser la porte ouverte à une suite à Predator 2.
Ouais.
Dans le fond. Mm-hmm. Donc, un film qui en vaut la peine.
En effet. Donc, c'est tout. Je vous rappelle, si vous avez des questions pour Yannick Dubois, Stéphane Portasso et Ludovic Sioux, qu'on va interviewer un petit peu plus tard, allez dans la salle de chat My Room 2 et laissez vos questions là. Et puis on va aller les chercher quand va être le temps de l'entrevue. Donc, sur cela, on s'en va une pause musicale. On va écouter Bark at the Moon de Ozzy Osbourne. Et on revient après la pause à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars.
www.citycloud.net.
Toy Palace est le seul arrêt pour vos produits dérivés de Star Wars. Vous y retrouverez toutes les collections Hasbro de Power of the Force 2 jusqu'à la récente collection Original Trilogy, ainsi que de nombreux produits d'autres licenciés Star Wars tels que Atacus, Master Replica, Code 3, Gentle Giant. Branchez-vous et faites l'expérience de l'achat en ligne chez Toy Palace, le numéro 1 d'Europe pour les produits dérivés de Star Wars. www.toy-palace.com.
Legends Action Figures, l'endroit par excellence au Canada pour vos figurines et produits dérivés de Star Wars. www.legendsactionfigures.com.
Chez SimpleNet, vous obtiendrez pour un coût très raisonnable une vitrine publicitaire pour votre compagnie, un site web créé pour vous sur mesure par notre équipe de professionnels ou tout simplement un espace pour héberger votre site personnel. Les amateurs de jeux en ligne ne sont pas oubliés. Nous pouvons vous offrir des forfaits de bande passante très intéressants, de même que des solutions de serveurs préconfigurés clés en main. Rejoignez-nous au www.simplenet.ca.
Yes, Captain.
We've intercepted a rebel broadcast. Here it is.
And welcome to Star Wars Sound Direct, the voice of Star Wars fandom. Hi, everybody. This is Will Mitail, accompanied by...
Rebel scum. They are in this system. I will deal with them myself.
The Emperor himself has requested your presence about this matter.
Prepare my shuttle.
Yes, my lord.
Bidding, my master.
There is a great disturbance on the internet.
I have felt it. The show is Star Wars on Direct.
Yes, the voice of Star Wars fandom. Can we communicate with all the Star Wars fans through this show?
Not yet, my master. Some fans have never heard the show.
They will. It is inevitable. We can use the Force to make these rebel fans tune in live and then take control of Star Wars fandom.
They will listen to Star Wars on Direct or be destroyed, my master.
Good, good. Everything is proceeding as I have foreseen.
Hello, this is Paul Enns, director of Lucas Online, and you're listening to Star Wars on Direct.
Re-bienvenue à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars. Juste avant l'introduction de M. Paul Enns, vous avez entendu notre commercial, comme on dit, notre publicité anglophone de Star Wars en direct. Évidemment, un autre bon travail de Raven qui a fait le montage de tout ça. et de Sean Crosby qui a fait la voix de l'empereur et de Darth Vader dans ce petit montage, petite publicité. Donc, on va saluer les gens dans le chat. Sébastien, t'es pas prêt? Oui.
Oui. Alors, on va dire bonjour à Arcos, Seed, Dark Jedi, Jidro, Jedi Silka, Jedi Luke, Kamuscle, Lunatic, Metab, Obi-Wan, Pisbury, Raven, Squall 93. And I'm going to say hi to Jedi Luke in English because he's listening to the show in French right now. So it's funny for him.
Et pour tous ceux qui ont des questions à poser à nos invités pour leur dresser, allez dans My Room 2 et laissez vos questions dans la seconde salle de chat et on va aller les chercher en temps venu. Donc maintenant, comme d'habitude, la chronique hyperespace, comment ça fonctionne?
Tout à fait. Alors, on vous demande de ne pas discuter d'aucun spoiler que nous allons annoncer aujourd'hui dans la salle de chat principale sur swendirect.com. Vous pouvez aller le faire dans My Room 1. On vous demande aussi de ne pas en discuter sur les forums qui ne sont pas ouverts aux spoilers sur Internet, car il faut respecter tout un chacun de notre chère communauté de fans et ne pas spoiler ceux qui ne désirent pas l'être. Donc, aujourd'hui, on vous annonce que la chronique sera d'une durée de 5 minutes seulement, parce que...
Ça fait juste une semaine qu'on a fait une émission.
Et il n'y a pas eu beaucoup de développement du côté de Lucasfilm. Donc, on vous revient dans 5 minutes avec Star Wars en direct.
Oh, crap! Prepare to jump into hyperspace on my mom.
All right, stand by.
Cette chronique est une présentation de Star Wars en direct.
Alors pour commencer, on vous annonce que c'est maintenant officiel. Alderaan fait partie des 12 planètes qui sera dans Revenge of the Sith. Nous avions déjà eu une bonne idée que la planète serait présente l'hiver dernier, mais lorsque nous avions vu, particulièrement lorsque nous avions vu sur la webcam de Hyperspace un cartable avec le nom Alderaan, qui figurait sur le côté.
Ça fait quand même un an de ça.
Un an de cela, c'est cela. Cette fois, c'est un fan du site de Force.net qui a envoyé le sommaire du nouveau Star Wars Insider qui discute d'une nouvelle planète dans Revenge of the Sith et qui décrit « Alderaan apparaît dans Revenge of the Sith. Les décors de la planète ont été filmés récemment en Suisse, comme nous l'avions déjà mentionné. L'architecture d'Alderaan est similaire à celle retrouvée dans le vaisseau Tantive IV, le vaisseau de Bail Organa, qui va très bien avec le design de la planète et des autres véhicules. » Il y a eu quand même, comme à toutes les semaines, une image Null Vision et une image Before the Helmet. Alors cette semaine, l'image Null Vision a été prise de la passerelle de tournage au-dessus du bureau du chancelier suprême de Palpatine. Donc on a une espèce de grosse barre censurée qui bloque le bureau, le siège et tout.
Qui est la passerelle, hein? Ouais, c'est ça.
Mais qui nous permet quand même de voir l'entrée du bureau avec un petit peu autour et une entrée vers un passage secret, entre guillemets, vers des quartiers plus privés de ce cher monsieur Palpatine.
En effet.
Qui est maintenant chancelier suprême. Et il se la pète, le mec. L'image Before the Helmet, tant qu'à elle, nous montrait la conception du masque de Darth Vader pour l'épisode 3. L'image montre la moitié du casque de Darth Vader placé sur un moule de la tête de Hayden Christensen. En fait, je dirais le haut du corps, le haut du torse, là. L'image s'intitule Halfway There et le texte qui accompagne l'image est « Le département des costumes et accessoires commence le travail sur un casque noir. Dans ce cas-ci, le moule d'un masque est placé sur un modèle en plâtre du visage de Hayden Christensen. » Et aussi, une petite nouvelle que nous avons eue juste avant d'arriver au show. On a été voir qu'il y a une nouvelle image photo Receptor qui est sortie pour les membres de Hyperspace aussi, mm-hmm. qui montre Darth Vader sur le pont d'un Star Destroyer dans Empire Strikes Back. Et c'est l'image s'intitule Reflecting Vader. Mm. Et,
point intéressant,
c'est que le texte qui suit indique que le sombre seigneur Sith qui prend une seconde pour penser un peu à tout ce qui se passe présentement, a été pris pour l'épisode 5. Cependant, c'est un design qui va être minutieusement copié pour une scène similaire dans l'épisode 3.
Moi, je dirais que ça va être exactement la même scène qu'on voit la réflexion de V2 dans l'image, sauf qu'il va y avoir quelque chose d'autre que juste des étoiles en arrière.
J'ai bien hâte de voir ça. Donc, c'était cela. Et on a aussi eu un petit fan spoiler report, ouais. Appelons ça comme ça, de certains forums privés d'Internet. Alors, il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un qui travaille chez Lucasfilm. Et ça fait un an à peu près qu'il essaie de lui faire cracher des choses par rapport à Star Wars, mais il n'est jamais capable. Et finalement, en fin de semaine, il a été capable de lui faire sortir que...
Parce qu'il a pris un peu d'alcool, etc.
Exact. Qu'il travaillait sur la planète Kashyyyk. Et que Yoda va aller là et qu'il va pour rencontrer un diplomate ou quelque chose comme ça. Et arrivé là-bas, il va trouver un holocron ou quelque chose comme ça. La personne dans le forum ne semble pas sûre parce qu'elle connaît pas exactement l'univers étendu, blablabla. Bla bla. Bon, enfin. Et
il appelait d'ailleurs le holocron le Holycron.
Holycron, c'est ça avec.
Dans le sens de pas béni mais saint.
Je sais pas. Ouais, le synchron. Enfin.
Ça se dit mal en français.
Exact. Non? Et puis, principalement, ce qu'on retient qui est quand même plus intéressant, c'est que lorsqu'il va être sur Kashyyyk, Yoda va avoir une vision de l'Empereur qui va infecter l'esprit d'Anakin et qui va réussir à lui faire tuer la reine Amidala, etc. Et que il va lui mettre des fausses mémoires à la place. Mm-hmm. Donc, on a hâte de voir ce qui va se passer. Est-ce que c'est vrai qu'Anakin va tourner lui-même au côté obscur? Ou est-ce qu'il va être tourné au côté obscur avec l'aide de Palpatine?
Donc, qu'est-ce qu'il dit, c'est ça, c'est que Palpatine lui met une fausse mémoire que c'est les Jedi qui ont tué Padmé.
Exact.
D'accord. C'est à voir.
C'est à voir.
C'est moi, quand même une rumeur, mais c'est...
Moi, je vous dis, je suis très, 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 très suspect de cette nouvelle-là. Ouais. Parce que, justement, l'histoire du holocron a été déniée par Pablo Hidalgo sur les forums officiels. Mm-hmm. Mais
c'est pas la première fois que
ça serait pas la première fois qu'il y aurait quelque chose qui revirait de côté.
En effet.
Et c'est tout pour la chronique hyperespace de cette semaine.
Spoiler off à tout le monde dans le chat. Voilà. Oups. Ça a pas marché. Envoyé. Voilà. Donc petite transition. Et puis on va parler des différentes nouvelles non épisode 3. Et on est de retour avec tout ce qui est outre la revanche des Sith. Ça va être la revanche ou la vengeance? Moi, d'après moi, ça va être la vengeance. Parce que Darth Maul, dans l'épisode 1 en français, il dit « Enfin, nous aurons notre vengeance. »
C'est fort possible. Je préfère même pas essayer d'y penser. Et pour commencer cette chronique nouvelle diverse, on voudrait vous informer du fait que Bunny Girl, nul autre que la modératrice en chef des forums de StarWars.com, a réussi à faire suer quelqu'un du service météorologique aux États-Unis et se lui a rapporté d'avoir une tempête tropicale qui porte le nom Bunny.
En effet. Bon, de quoi je vais parler?
De ce que tu veux.
Oui, mais j'ai retiré certaines informations. Il y a quand même beaucoup de choses. Il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles côté collection, mais je veux dire, c'est des produits qui sortent. Donc, il y a plein de sites web où est-ce que vous pouvez lister. Puis c'est souvent des images qu'on nous montre. Donc, à une émission d'audio, on ne peut pas vraiment vous montrer des images. Donc, j'ai sorti quelques nouvelles concernant les miniatures du jeu de rôle, Battlefront, et puis quelques nouvelles d'Atacus aussi. Donc, on commence avec les miniatures Rebel Storm. C'est comme un peu comme le Frodo que vous voyez à la webcam. La série sera sur les tablettes aux États-Unis dès le 3 septembre. Donc, elle sera techniquement disponible partout dans le monde à la même date pour les boutiques qui traitent directement avec Wizard of the Coast. Contactez vos marchands locaux pour obtenir plus de détails. Pour les habitants de la région de Montréal, la boutique Le Valet de Cœur les aura dès la sortie, donc le 3 septembre. Visitez leur site pour plus d'informations concernant leur stock. Faites votre commande en ligne ou pour prendre connaissance de leurs coordonnées. L'adresse web, c'est www.levalet.com. Donc, allez là. Encore par rapport au Valet de Cœur, pour souligner la sortie des miniatures Rebel Storm, Wizard of the Coast organise par le biais de ses divers partenaires des tournois de miniatures dans plusieurs villes d'Amérique du Nord, dont un qui se tiendra à Montréal, avec les petites miniatures comme ça. Et puis le tournoi aura lieu le 4 septembre, donc le lendemain. J'espère que le monde apprenne le règlement assez rapidement, ceux qui veulent jouer.
Je pense que les règlements vont être disponibles en ligne de toute façon. Donc.
Enfin, le tournoi aura lieu le 4 septembre à midi, soit le lendemain de la sortie de la série, et aura lieu à la boutique Le Valet de Cœur située au 4408 sur la rue Saint-Denis à Montréal. Vous pouvez vous inscrire à l'avance en appelant à leur numéro sans frais 1-888-499-5389, 1-888-499-5389. Il y a un maximum de 50 participants. Les inscriptions sont gratuites. Le tournoi se joue sous la forme Kill 'em All. Kill them all. Les règles générales, vous devez être un membre de DCI. Je sais même pas c'est quoi. DCI. Ça doit être une association de joueurs de ce genre de... une association nord-américaine. Quelque chose comme ça. Si vous ne l'êtes pas, ce n'est pas un problème car vous pouvez le devenir sur place, vous inscrire sur place gratuitement. Le total des points de votre squad ne doit pas dépasser 100 points. Outre l'exception de la faction Fringe, tous les membres d'une escouade doivent appartenir à la même faction. Et puis, il n'y a aucune limite quant au nombre de figurines utilisées dans votre escouade. S'il y a des détails déjà comme ça, j'imagine que allez sur le site Wizard of the Coast. Je suis pas mal certain que tous les règlements sont déjà disponibles sur le web. Alors voilà pour les mini-figurines. Ça m'intéresse grandement, mais c'est le temps qui joue contre moi. Donc. D'ailleurs, une nouvelle diverse que je vais noter immédiatement. Crayon.
Oui, c'est le chandail.
Ah, entre autres.
Une autre nouvelle diverse.
J'ai inscrit ça immédiatement. Le chandail, je vais en parler un petit peu, mais il est seulement en anglais, donc... D'accord, on continue. Les nouvelles de Battlefront maintenant. Star Wars Battlefront DE, qui est un site web, a proposé des questions à l'équipe de développement de Pandemic Studio, qui travaille actuellement sur Battlefront. Le jeu supportera Windows 98, 2000, Millennium et XP. Ils bricolent le support Linux aussi, mais ne veulent rien faire à moitié, donc ça ne sera pas disponible avant que ce soit vraiment au point. Ils ne parlent pas de numéro de code un serial, mais on pourra se créer un profil pour jouer en simple joueur comme en multijoueur. On pourra également avoir une identification sur GameSpy et garder un œil sur nos performances. Ces statistiques seront affichées en ligne directement sur le site de LucasArts. Attention. Les joueurs de tout autour de la planète tenteront de prendre la première place pour le plus grand nombre d'ennemis abattus. Il va aussi y avoir protection contre le hacking et le cheating. Le jeu va supporter Punkbuster via le service de GameSpy. Punkbuster est un utilitaire qui parcourt l'ordinateur à la recherche d'antécédents de violation du jeu, du hacking dans le fond, ou d'utilisation des codes de triche. Ensuite, ils ont déjà considéré la sortie d'un démo et d'une bêta-test. Une bêta-test aurait été utile, mais ils n'en sortiront une si et seulement s'ils peuvent réellement réagir aux commentaires des participants. Une démo pourrait sortir sur le net seulement si le temps de développement de cette démo ne gêne en aucun cas la production du jeu en tant que telle. Donc, sera disponible tout de même sur les DVD de la trilogie originale. Ensuite, il y a toujours la possibilité de voir des ATST dans le jeu. Aussi, les propriétés physiques sont présentes dans le jeu. Chaque véhicule a ses propriétés. L'infanterie utilise un système ragdoll fait maison. Un système ragdoll fait maison. Si une explosion survient près d'une unité, on verra le pauvre soldat s'envoler dans les airs jusqu'à ce qu'il percute un objet sur sa trajectoire ou jusqu'à ce que la gravité se fasse son travail. Assez humoristique. Les développeurs ont mis beaucoup de temps sur l'engin physique. Alors voilà. Maintenant,
j'aimerais en profiter pour mentionner d'ailleurs que Eric Gewirtz, qui est un des producteurs du jeu, pour le citer de la revue Surge qu'on a présentement avec nous, it was very important that we captured the look and feel because God knows we'll hear about it from fans if we get it wrong. Pour le traduire en français, c'était très important que nous capturions vraiment l'essence de Star Wars, autant au niveau visuel que virtuel, parce que Dieu seul sait que si jamais on manque notre coup, on va en entendre parler de la part des fans.
Et voilà. Atticus, maintenant. L'information qui a été envoyée sur les forums d'Atticus fait état des prochaines figurines qui feront partie de la série 4 des statuettes de résine de cette populaire compagnie française. Donc les trois figurines qui ont été mentionnées, il y a Luke Skywalker Jedi Knight, The Return of the Jedi en noir. Il y aurait le Biker Scout et son speeder bike. Et puis le TIE Fighter Pilot dans A New Hope. Et voilà. Atticus mentionne que le choix de ce personnage a été approuvé par Lucasfilm, mais qu'aucune pose spécifique n'a encore été établie pour l'instant. Donc, c'est à voir. Aussi, le 19 août prochain, l'hérétique de la Force 2, les réfugiés de Shane Dix et Sean William, sera en magasin de l'éditeur Fleuve Noir. Donc, le 19 août, c'est jeudi, ça, prochain?
Jeudi prochain, effectivement.
Donc, allez chercher ça. Ça fait déjà un bon petit bout qui
est paru. Sorti.
Évidemment. Maintenant, présentement, je porte, on ne le voit pas, je porte un t-shirt Star Wars en direct.
Alors, nous allons avoir...
essayer de bien...
La pose.
Bien cibler. Ça, c'est en avant. On va regarder la webcam, tout le monde. Allez sur le... www.swendirect.com. Là, j'ai les t-shirts blancs, ça sera pas nécessairement facile. Voilà, de face, vous voyez le petit logo sur la poitrine. Et puis, c'est. Ok, on va s'approcher un petit peu. Voilà. Et de dos, maintenant. Ce que je mentionnais, c'est qu'il est en anglais parce qu'on a fait principalement ce t-shirt pour la promotion. Quand on va aller à des conventions au Canada pour aux États-Unis, donc c'est inscrit en anglais à l'arrière. Tout le texte est écrit en anglais. Et l'heure de diffusion aussi, donc c'est 7 p.m. to 10 p.m. Eastern, donc le format américain. Pour quand on va aller aux conventions aux États-Unis puis au Canada, comme dans deux semaines, on va être à Toronto pour faire une émission. Donc voilà. Et puis, pendant la pause, on va essayer de penser de vous envoyer le lien si vous seriez intéressé à en acheter. Je crois que c'est 15 US, donc 15 €. Mais il y a quand même du shipping à payer. Donc, attendez-vous, surtout les Européens,
à des surcharges
de prix, exactement. L'autre nouvelle, qui est peut-être pas nécessairement une bonne nouvelle pour les auditeurs, c'est que la version française de Star Wars en direct va tomber de 2 émissions par mois à 1 émission par mois, malheureusement. Disons qu'il y a des changements importants dans ma vie, et puis j'ai besoin d'un peu plus de temps libre le dimanche. Donc, c'est tout simplement cela, n'est-ce pas? Je vois Sébastien qui se prend la tête, là.
Non, mais je veux dire, c'était pas obligé d'aller aussi loin que ça dans les détails.
Non, c'est ça.
Donc, nous sommes désolés de vous informer du
exactement.
Fait que nous allons
cependant, relâcher, sur cclan.net, j'ai laissé un lien. Et puis, j'essaie de trouver une solution pour récupérer cette deuxième émission, mais avec une autre équipe de production. Donc, il y aurait une émission en français faite par moi et Sébastien, comme d'habitude, où est-ce qu'on ferait les entrevues, etc. Et puis, une seconde équipe qui serait idéalement européenne, qui aurait tout l'équipement que l'on a, et puis qui serait prête à produire ça, un duo qui serait prête à produire ça. Donc, si vous avez des idées ou vous voulez nous vous suggérer vous-même, laissez-nous un email à info@swendirect.com ou sur le forum, et puis on étudiera votre candidature attentivement, et puis on va vous demander de faire des démos puis des affaires pour qu'on puisse vous évaluer sur différents sujets ou toutes sortes, pour qu'on puisse vraiment choisir une équipe dynamique comme nous, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'on a d'autres choses à mentionner? C'est qu'est-ce que je veux mentionner ici?
Les chandails.
Non, les chandails, non, on l'a mentionné, on l'a montré. Donc,
non. Non, en fait, je parlais des chandails de Revenge of the Sith qui vont être disponibles à l'achat du coffret DVD de la trilogie originale de Star Wars le 21 septembre si vous achetez en précommande avec
StarWarsShop.com.
Avec Future Shop au Canada.
Ah, ben moi j'ai déjà commandé, j'ai déjà acheté mon t-shirt, donc.
Et voilà.
Je suis cuit.
Bof. Le chandail n'en vaut pas vraiment la peine, sûrement, de mon avis.
Exactement. Ben, c'est le logo classique en t-shirt noir avec le logo rouge, là.
Je me souviens plus, en fait, ce que je vais faire, hein, c'est je vais trouver le lien, puis je vais l'envoyer à nos amis sur le chat.
Ouais. Alors, voilà pour les nouvelles diverses. Je crois qu'on est bon pour aller à la pause musicale et puis débuter immédiatement l'entrevue sur le fanfilm Lord Russit. Donc, si vous avez des questions, laissez-les dans My Room 2, qui est en dessous de tous les pseudos. Et puis, on va aller jeter un coup d'œil au fur et à mesure de l'entrevue. C'est plutôt Sébastien qui va jeter un coup d'œil pendant l'entrevue s'il y aurait des questions qui sortiraient à cet endroit. Et puis, on va leur poser quand toutes nos questions seront écoulées. Maintenant, j'essaie d'aller replacer ma playlist. Et voilà, donc, on revient immédiatement après la pause. Et à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars. Dis-moi donc, c'est quoi ton histoire? Que je te lise la mienne. Je veux pas savoir qui tu es, mais plus pourquoi. Est-ce pour ma paix ou pour la tienne? Et si tu veux, on peut même aller plus loin. Savoir dans tes caprices, c'est peut-être le même, je vois.
Thank you.
Toy Palace est le seul arrêt pour vos produits dérivés de Star Wars. Vous y retrouverez toutes les collections Hasbro de Power of the Force 2 jusqu'à la récente collection Original Trilogy, ainsi que de nombreux produits d'autres licenciés Star Wars tels que Atacus, Master Replica, Code 3, Gentle Giant. Branchez-vous et faites l'expérience de l'achat en ligne chez Toy Palace, le numéro 1 d'Europe pour les produits dérivés de Star Wars. www.toy-palace.com.
Legends Action Figures, l'endroit par excellence au Canada pour vos figurines et produits dérivés de Star Wars. www.legendsactionfigures.com.
Chez SimpleNet, vous obtiendrez pour un coût très raisonnable une vitrine publicitaire pour votre compagnie, ainsi que créé pour vous sur mesure par notre équipe de professionnels, ou tout simplement un espace pour héberger votre site personnel. Les amateurs de jeux en ligne ne sont pas oubliés, nous pouvons vous offrir des forfaits de bande passante très intéressants, de même des solutions de serveurs préconfigurés clés en main. Rejoignez-nous au www.simple-net.ca.
Cyclan.net, c'est
les toutes dernières actualités sur l'univers Star Wars.
Plusieurs dossiers sur la saga.
Des événements et rencontres entre fans.
Un énorme forum de discussion.
Une radio web à contenu 100% Star Wars, incluant une ligne ouverte en direct.
Plusieurs concours ouverts au Québec et en Europe.
Et bien plus encore.
Ne résistez pas à la tentation du côté obscur.
Cliquez sur le www.cyclan.net.
This is Stephen Barnes, author of the new Clone Wars Star Wars novel, The Cestus Deception, and you're listening to Star Wars on Direct.
Bienvenue à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars. On est maintenant rendu au point de l'émission qui est notre sujet principal et le sujet attendu de la plupart de ceux qui sont dans le chat, c'est-à-dire le fanfilm L'Ordre Sith. Et je vais avoir la chance de parler principalement à Yannick Dubois pour la première partie de l'entrevue et aussi une question que Stéphane Portasso, responsable des décors et costumes, va répondre à la place de Yann. Et un petit peu plus tard, nous allons téléphoner après la seconde pause musicale avec Ludovic Sioux, qui a été celui qui a été à l'origine de l'idée de créer un fan-film de Star Wars. Donc, bonjour Yannick.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, ça va.
Donc, on va aller directement au vif du sujet. L'idée derrière l'Ordre Sith. Premièrement, je vais te demander ton rôle. Quel est ton rôle dans le fan-film L'Ordre Sith?
Alors, mon rôle, en fait, c'est... le nom, c'est chargé de production, et en fait, c'est moi qui est en charge d'organiser, planifier les séances de tournage, m'assurer qu'il y ait le matériel, les acteurs, les locaux, enfin, être sûr que quand on arrive au tournage, tout soit prêt, tout soit nickel, en fait.
Ok, donc l'équivalent de Rick McCallum pour Star Wars, c'est ça?
Ouais, c'est un peu ça. Ouais.
D'accord. L'idée derrière l'Ordre Sith, premièrement, qu'est-ce que l'Ordre Sith pour ceux qui ne le sauraient pas?
Alors, l'Ordre Sith, en fait, c'est un film amateur, donc réalisé par des fans, en fait. Réalisé de A à Z que par des fans. C'est-à-dire que ce soit du costume jusqu'à le montage, les décors et tout, c'est que des fans qui ont fait ce film.
Excellent, c'est vraiment exceptionnel. Les objectifs de l'équipe, quels sont-ils? J'imagine, j'ai vu que vous étiez très nombreux à participer à ce film, donc il doit y avoir certains objectifs plus précis pour chacun des membres.
L'objectif à la base, c'est quand même de participer à l'expérience d'un tournage, de vivre l'aventure d'un tournage, et puis de montrer qu'il est possible de se lancer dans un projet cinéma avec très peu de moyens et juste beaucoup de bonne volonté, en fait.
Mm-hmm.
Et puis bon, on se fait plaisir aussi.
J'avoue que...
De pouvoir tourner, on va dire, dans l'univers de Star Wars aussi.
En effet. l'histoire de l'Ordre Sith, sans aller dans les détails, car je suis certain que vous voulez garder beaucoup de choses secrètes. Quelles sont les grandes lignes de l'histoire?
Alors, en fait, l'histoire se passe 57 ans après le retour du Jedi.
D'accord.
Ça, c'était dans l'idée d'éliminer, on va dire, tous les personnages connus dans la trilogie.
D'accord.
Et, en gros, pour résumer, c'est que les Jedi sont requis par le gouvernement pour démêler des attaques de convois qui ont lieu un peu partout dans la galaxie.
D'accord.
En gros, ça, c'est les grandes lignes. Donc pour ça, il y a un maître et son apprenti qui partent en mission pour essayer de solutionner le problème.
D'accord, intéressant. Ce qu'il y a de spécial dans l'Ordre Sith, c'est qu'il est accompagné d'un univers étendu propre à lui-même. Est-ce que tu peux en parler un peu plus, quel genre de produits qui vont être dérivés du film, etc.?
Alors, produits dérivés, je ne sais pas, mais bon, l'univers étendu, en fait, ce qu'on a voulu, c'est que le film s'imbrique complètement dans l'univers de Star Wars. Donc en fait, c'est parti que, en partant du scénario, on avait toute une équipe qui était censée corriger le script au fur et à mesure qu'il était écrit par Ludo,
mm-hmm.
de manière à le mettre dans la continuité de tout ce qui était déjà fait dans Star Wars.
D'accord.
C'est-à-dire les films, bien sûr, mais aussi les BD, les romans et toutes ces choses-là.
Mm-hmm.
Et donc, de fil en aiguille, on a créé des personnages, on a créé des vaisseaux, et puis le plaisir prenant le dessus sur le... enfin, on a fini par vouloir donner en fait à tout ce qu'on a créé une consistance.
Mm-hmm.
Les vaisseaux, on leur a donné, on a étudié au niveau technique comment ils devaient se faire. Les costumes ont été dessinés par rapport à ce qui existait déjà dans les BD ou ce qu'on a pu voir dans les films.
Mm-hmm.
Pas tous les costumes, mais les costumes spécifiques aux films.
Mm-hmm.
Et de fil en aiguille, on est arrivé à créer nos planètes, à créer avec toute l'historique, tout ce qui va derrière en fait.
Mm-hmm.
De manière à crédibiliser un maximum la période du fan-film.
C'est une très bonne idée parce que j'imagine que c'est des choses que vous ne pouvez pas tout expliquer dans le film, donc faire des documents à côté.
C'est l'intérêt en fait qu'il va y avoir, c'est pour ça qu'en plus du film, il n'y a pas que le film en fait. On mm-hmm. a le film qui est on va dire 80% du travail,
mm-hmm.
et derrière nous on a écrit un roman, le roman,
oui.
en fait, donc qui sera disponible sur le web avec le film plus... tout ce qu'on peut pas dire dans le film.
Mm-hmm.
Et puis il y a tout un travail sur l'univers étendu qui sera après disponible sur le web.
C'est super ça. Le fan film est passé d'un court métrage à long métrage. Pourquoi cette décision, sachant que le travail d'un long métrage est colossal?
En fait, on n'a pas vraiment pris la décision de le passer sur un long métrage. Ce qui s'est passé, c'est que à lire le script, c'était déjà difficile de tout cadrer dans un court métrage.
Mm-hmm.
On aurait pu, si vraiment on avait raccourci un maximum, mais bon, ce serait au moins retrouvé en moyen métrage.
Okay.
Puis bon, l'arrivée de certaines personnes, comme à l'époque Doc Jones,
mm-hmm.
et Olivier Couston et tout ça, qui nous ont apporté un savoir-faire 3D qu'on pensait pas, qu'on envisageait même pas en niveau amateur. Et de fil en aiguille, vu toutes les possibilités qui s'ouvraient, on est arrivé à monter le film à un niveau largement supérieur. Puis on a vu au fur et à mesure des tournages, on s'est rendu compte en fait, au fur et à mesure des tournages, on passait en long métrage.
Mm-hmm.
De toute façon, on ne pourrait pas cadrer le film en 20 minutes comme ça.
En effet. Quelle durée officielle vous prévoyez pour le fan film?
Là, actuellement, je dirais 1h30.
D'accord.
1h30, 1h45.
C'est exceptionnel pour un fan film.
Ah ouais, c'est énorme.
Je ne crois pas qu'il y en a un présentement qui a cette durée.
Non, je pense pas. Je pense pas, non.
C'est excellent.
Et c'est en ça qu'on passe en film amateur, en fait, carrément, là.
Ouais.
Donc,
Ensuite, qu'est-ce que je pourrais bien dire? Vous avez quelques partenaires professionnels, tels que Vidéon et autres contacts professionnels, dans le domaine de la télé et du cinéma. Quel a été leur apport à la production de l'Ordre Sith et comment les avez-vous rencontrés?
Oula, alors, en fait, c'est de fil en aiguille, en fait. On a, en présentant les morceaux de films dans divers conventions de fans, du monde s'est greffé sur le projet.
Mm-hmm.
Et au fur et à mesure, en fait, des personnes ont apporté leur savoir-faire. on a eu la chance, donc on a rencontré Lionel Alorge là, du Lune Rouge, mm-hmm. là, qui nous a mis en relation avec Vidéon. Et Vidéon, là, nous ont apporté, enfin, le partenariat avec Vidéon nous a apporté beaucoup de choses en plus, c'est-à-dire du matériel qu'on n'avait pas forcément à la base, mm-hmm. comme tout ce qui est lumière, mandarine, tout ça, on avait rien au départ. Les caméras, on est parti sur une petite DV, on a pu avoir quelque chose au-dessus, et encore au-dessus après avec un investissement qu'a fait un des mecs de l'équipe. Et puis on a eu le fond bleu. Mm-hmm. Que le fond bleu, on a trouvé un grand fond bleu, bon, c'est pas nécessaire pour toutes nos séquences. Mm-hmm. Donc c'est toujours difficile à trouver, mais Vidéon nous a amené un fond bleu de taille plus réduite, nous a permis de faire un maximum de scènes sur fond bleu en fait.
C'est excellent ça.
C'était un grand progrès qu'on a fait au niveau du film dans cette vidéo.
Est-ce que ces partenariats-là ont été faits avant la décision de passer à un long métrage?
Ben, en fait, ça s'est fait au fur et à mesure.
Ah, d'accord.
L'histoire du long métrage, on a commencé vraiment les tournages, on va dire. On a fait un premier tournage en novembre 2002 qui était pas jeune. Où on a vu beaucoup toutes les difficultés qu'on allait avoir à surmonter. Mm-hmm. Donc après, on est passé, à partir de février, on a commencé à se lancer dans le vrai tournage en décor naturel. Et c'est là qu'on a commencé de se dire, le court-métrage, c'est pas gagné, le moyen non plus. Mm-hmm. Et bon, en évoluant au fur et à mesure du script, en évoluant au fur et à mesure des scènes 3D qui arrivaient, c'est là qu'on est arrivé par-dessus et ça nous a encore ouvert d'autres portes mm-hmm. pour continuer sur le long métrage en fait.
C'est ça. Je voulais justement savoir si Vidéon avait été un des éléments qui vous a fait décider avec tout l'équipement que l'on a maintenant, on peut faire un long métrage plus facilement, mais ça l'a été au fur et à mesure, comme tu me dis.
En fait, on s'est pas dit à un moment, non, tiens, là, on arrête, on fait plus le court métrage, on fait du long.
D'accord.
Et ça passe, il n'y a pas eu ce moment où on s'est dit, là, on fait ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, on en est arrivé, nous, à la conclusion de se dire, on n'est plus sur un court-métrage, on est passé en moyen. Et, on est en long. on est en long-métrage. Donc, pour nous, ça n'a pas vraiment changé grand-chose à la base.
D'accord.
Là, on continue de travailler dans le même esprit on était lancé sur un court, sauf que là, on se lance sur un long.
En pré-production, maintenant, comment ont été choisis les lieux de tournage? Est-ce que le script a été adapté au site trouvé ou avez-vous recherché particulièrement des lieux tels que décrits dans le scénario?
En majorité, je dirais qu'on a cherché des lieux se rapprochant le plus possible de ce qui était décrit dans le scénario, en fait.
D'accord.
Il y a eu pas mal de... Bon, grâce au fait qu'on commence de se faire connaître, qu'on ait étendu, on va dire, l'équipe à divers horizons, mm-hmm. Ça nous a permis de rapporter, d'avoir accès à des gens qui connaissaient divers lieux. On avait besoin d'une cantina, c'est Rémi, notre monteur, qui nous a dit, moi je connais un bar dans le 9e, il pourrait peut-être faire l'affaire.
D'accord.
On avait besoin il nous fallait une passerelle de commandement, on a pris contact avec monsieur Debeuf du Space Center en Belgique. Mm-hmm. On avait besoin d'un décor dans le script, il y a une planète boisée, Ludovic nous a emmené sur les sites en Bretagne, en disant, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, en fait, le script a été écrit parce que dans l'idée de Ludo, il avait certains des décors en tête, comme pour la planète de boisée, il avait la forêt de Weldoat en tête.
D'accord.
Il y a toute une partie du film qui a été écrit avec Ludo avait des choses en tête, mais il y a toute une autre partie où on n'avait pas forcément le décor à la base.
D'accord.
On avait un décor dans notre tête parce qu'on le voyait d'une certaine manière, mm-hmm. mais pour le trouver, c'était pas gagné à la base. Donc il y a eu quand même une bonne prospection à ce niveau-là.
D'accord. Vous avez des décors physiques. C'est peut-être une question pour Stéphane. Vous avez des décors physiques, naturels et numériques pour l'ordre site. Pouvez-vous lister les environnements qui seront visibles dans l'ordre site?
Je vais y passer le téléphone après quand on va commencer de parler des décors créés.
Ok, d'accord.
Alors, là, on a vraiment quatre types de décors vraiment physiques et naturels et numériques. On a Tatooine et ses bas-fonds. Mm-hmm. On a Coruscant. Avec tous les immeubles du chancelier, le bureau du chancelier suprême. On a un environnement forestier et un environnement souterrain.
D'accord.
Et ça résume les quatre grosses parties du film. En plus, les passerelles de commandement et puis les fameux décors comme le cockpit que Stéphane là, a créé intégralement en fait.
Excellent ça. quel est le pourcentage d'utilisation de chacun des types de décors, approximativement, je dirais? Quelles sont leurs principales difficultés à bien reproduire l'ambiance Star Wars lors de la création?
On va dire qu'on a deux tiers de décors naturels quand même.
Mm-hmm. C'est quand même le plus facile à obtenir.
Disons, le plus dur a été de les trouver, mais une fois qu'ils étaient trouvés et qu'ils collaient dans l'univers Star Wars, c'est pas trop de problème après. Mm-hmm. Le plus dur, là, qu'il y a un tiers qui a été créé en 3D, c'est Coruscant.
Mm-hmm.
Pas forcément, on n'a pas le choix. Tatooine, y a la ville, il a fallu la créer en 3D aussi parce qu'elle n'existe pas. Il y a beaucoup de, sur les décors naturels, il y a beaucoup de rajouts 3D. La planète forestière, il fallait une zone d'atterrissage, elle était rajoutée après en 3D.
Mm-hmm.
On a majoritairement des décors naturels, y compris pour la passerelle de commandement. Une passerelle de commandement, on a un décor naturel.
Excellent. Est-ce que l'utilisation des storyboards est un aspect du tournage que vous teniez absolument à utiliser, puisque l'on sait que ce travail en est un de longue haleine, surtout pour un long métrage?
En fait, le storyboard, oui, ça a été un point où c'est Khan Erdogan au départ qui a travaillé dessus, donc ça a été un point qui, dès le départ du film, a commencé d'apparaître, on va dire, surtout pour les séquences particulièrement difficiles. Il y a quelques séquences qui impliquent soit énormément de monde, soit des plans bien particuliers, soit des choses comme ça. Donc là, il nous fallait absolument un storyboard. Là, les derniers tournages qu'on a fait, c'était les gros tournages. Donc c'est Jean-Luc Scala qui a repris en charge le storyboard.
Mm-hmm.
Avant de partir sur le plateau, on avait absolument le storyboard. Et en fait, il est avec nous sur le plateau parce qu'on se tient absolument à ce qu'il y a dans ce storyboard, sinon on s'en sortirait pas. Dès qu'il y a des plans, des tournages un peu plus grands en envergure ou avec plus de monde, ou là le tournage qu'on a au mois de septembre, on a le Conseil Jedi,
mm-hmm.
ça met quand même 16 personnes à l'écran, on a absolument besoin du storyboard, sinon on va pas tout jouer.
Excellent.
Là, il faut absolument qu'on ait un storyboard strict et qu'au niveau du cadrage, on se tienne au storyboard.
D'accord. Puis les storyboards sont l'idée, est-ce que c'est Ludo qui a vraiment fait les plans ou les plans de vue pour les séquences du film, ou c'est tout simplement quelqu'un qui a adapté le script?
En fait, Ludo, sur certains plans, il donne ses consignes par écrit.
Okay.
Après, le storyboarder fait au mieux.
Mm-hmm.
Et après, généralement, sur le plateau, c'est Vanessa Lafay ou Rémi Hoffman, donc qui nous connaissent un peu plus au niveau des réalisations, qui après, par rapport au storyboard, adaptent, on va dire, sur ce qui est faisable et pas faisable, ou sur le plan qui va marcher ou ne va pas marcher.
D'accord.
Eux, c'est vraiment, ils ont l'œil de la caméra. Ils savent ce qui va marcher, ce qui n'a pas marché.
C'est vrai. Un des aspects intéressants de l'ordre site est la peine que les participants se sont donnés pour créer des maquettes, modèles numériques, tous inspirés de Star Wars. Même les musiques inspirées de John Williams ont été composées. Pouvez-vous nous parler un peu des efforts mis dans le département de design et de conception? Tout pour autant les costumes, les accessoires, les maquettes, les décors, etc.
Pour les musiques, elles ne sont pas encore faites.
D'accord.
On a notre Julien Turet qui bosse là-dessus et qui est en train de travailler là-dessus.
Mm-hmm.
Et pour le reste, en fait, on a le département, le département univers étendu, en fait, avait pour rôle justement de garder l'esprit Star Wars.
Mm-hmm.
Donc les navets, les vaisseaux ont été créés. Donc à la base, c'est Doc, comment ça s'appelle? Olivier Couston qui a fait les premiers modèles.
Mm-hmm.
Après, c'est donc Claude Girard qui a repris la suite et qui a fait toute l'évolution, toute la mise en place de l'animation.
Mm-hmm.
Au niveau des costumes, on a regardé les BD, on s'est inspiré beaucoup des BD Tales from Jedi.
Mm-hmm.
On s'est servi à designer les costumes des maîtres Jedi, et puis pour les Padawan, on a gardé un peu le design des épisodes 1 et 2, en fait.
D'accord, le look traditionnel.
Ouais. Pour la plupart des apprentis, ont le look traditionnel. En revanche, les maîtres, non. ses maîtres. Il y a vraiment tout type de costume de maître. On n'a pas voulu rester dans le style on prend Obi-Wan et puis on fait un clone d'Obi-Wan dans tous les sens.
Donc c'était quand même intéressant parce que vous avez fait une évolution du costume avec les 57 années de différence, dans le fond.
Tout à fait. Bah déjà, on a fait une évolution au sein de l'univers étendu en disant qu'à la fin, au niveau des romans où on en est actuellement, l'ordre Jedi a quand même repris beaucoup de sa suprématie qu'il avait au départ. Donc ça, on a gardé ça comme quoi l'ordre était à nouveau rétabli. Et donc, avec tout ce qui va derrière, c'est-à-dire des costumes plus diversifiés en fonction des gens, on a au niveau des sabres laser, c'est Arco, c'est Pascal Ampoulier qui a travaillé sur les designs de sabres et de divers accessoires. Il nous a refait un casque Jedi basé sur un peu l'idée de l'épisode 1, mais en version un peu plus moderne. Les sabres laser sont vraiment personnalisés par rapport au personnage. Le sabre du Wookiee, par exemple, est personnalisé avec des morceaux de bois. Enfin, on a voulu donner vraiment l'évolution.
Mais vous avez...
c'est pareil, les maquettes, elles ont été designées. Donc bon, on a gardé, Ludo a bossé sur, a refait le Sandroller, ou le Sandcrawler, non, le Sandcrawler.
Ouais.
Et après, il y a eu une évolution où il a refait la deuxième maquette, l'évolution qui est devenue le Sandroller.
Ok, d'accord.
Ah, c'est une version évoluée. Pareil pour le vaisseau amiral, les vaisseaux ont été redessinés d'une manière, sur un design plus fluide que dans la trilogie originale, où on est quand même en période de guerre. Là, la période de guerre étant passée, c'est redevenu un design plus fluide, plus arrondi. Et même au niveau des vaisseaux de Jedi, bon là je vais laisser la parole à Stéphane, au niveau des cockpits, il y a eu deux cockpits de créer. Un plus type, on va dire, républicain, donc le LE, et un autre vraiment type Jedi. Mais bon, je vais le laisser parler pour expliquer la création des cockpits.
Parfait.
Je passe à Stéphane.
Ouais.
Bonjour.
Bonjour Stéphane. Ça va bien?
Oui, ça va bien, oui.
Oui, bon, explique-nous un peu toutes les difficultés à construire les décors ou à faire évoluer un peu le look Star Wars, mais avec les 57 années de différence avec la trilogie originale.
En fait, le problème premier, en fait, c'est pour les décors fabriqués par nous, c'est évidemment le fait de ne pas avoir un budget qui est assez limité. Donc, c'est fait avec de la débrouille, avec des pièces de récupération. Donc, forcément, on fait en sorte de coller au plus à ce qui a déjà été fait dans la trilogie classique. Tout en essayant de concilier ce qu'on a comme pièces détachées, comme pièces de bois. Et le gros problème, ça a surtout été pour les cockpits.
D'accord.
Que là, en fait, il fallait décoller au design qui avait été créé pour les nouveaux vaisseaux et faire en sorte que ce soit ça semble véridique, que ça semble vraiment pilotable et qu'on ait vraiment l'impression d'avoir des Jedi ou des pilotes dans des chasseurs et non pas simplement des bonhommes en costume dans des caisses en bois. C'est là où ça a été le plus difficile, mais bon, a priori ça semble avoir été réussi.
Et puis pour les décors plus généraux, là, les scènes d'arrière-plan ou autres, est-ce qu'il y en a eu beaucoup ou la plupart sont numériques?
La plupart sont numériques ou alors c'est vraiment le décor naturel comme disait Yannick. On a pas mal de scènes dans la forêt où on retrouve des rochers, des arbres. Donc là, c'est vraiment du naturel. Après, effectivement, sinon, les plans sont beaucoup plus larges. Je pense notamment au Conseil des Jedi, là. L'arrière-plan sera numérique.
Est-ce que j'étais pour dire si justement il était numérique ou pas le Conseil Jedi, donc il est numérique, le Conseil Jedi.
Dans le Conseil des Jedi, l'arrière-plan est numérique. Par contre, la table, elle sera un élément en dur, si je puis dire.
D'accord. Est-ce que le Conseil Jedi, j'imagine qu'il n'est plus le même? Et c'est quoi l'évolution du décor que vous avez fait?
Alors, on aurait pu partir sur la même base que l'épisode 1 du Conseil où les maîtres sont tous assis. Là, a priori, ça peut se faire comme c'est prévu. Hein, c'est toujours le tournage est prévu pour septembre, donc c'est pas encore béton. Mais normalement, là, l'évolution, les maîtres sont assis sur une table ronde.
D'accord.
Voilà. Donc, enfin. ce sont des angles, mais la forme générale, c'est une forme arrondie. Et là, visiblement, le conseil se passe en interne, donc entre les maîtres.
Excellent. Ben, je te remercie, Stéphane, pour tes réponses.
Ben, je t'en prie, il n'y a pas de problème. Je te repasse, Yannick.
Merci.
Salut.
Salut.
Ouais.
Bonjour, Yannick. Bon, on continue maintenant. C'est certain qu'il va y avoir des combats de sabre laser, n'est-ce pas? Qui a produit les chorégraphies? Combien d'heures de pratique pour les chorégraphies, etc.?
Oula! Alors, chorégraphie, en fait, il y en aura deux types.
D'accord.
Il y aura une partie qui a été chorégraphiée donc par les combattants eux-mêmes.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on va avoir deux couples de duels, avec Fabien Roussel, Stéphane Jourdain, donc eux, ils ont travaillé leur chorégraphie tous les deux.
D'accord.
On aura un autre, c'est Mathieu Caldara et Grégory Morelli, qui eux, pareil, ils ont travaillé leur chorégraphie ensemble.
Mm-hmm.
Donc là, ce tournage-là, il a lieu en septembre.
D'accord.
Et pour les deux autres combats, c'est-à-dire qu'il y a un combat final et puis il y a un combat entre le méchant et une des apprentis.
Mm-hmm.
Donc là, au départ, c'était Fabien Fontiche qui avait ça en charge. Le problème, c'était la distance.
D'accord.
J'habite dans le sud de la France, donc c'était pas évident pour les répétitions et tout ça.
Mm-hmm.
Donc c'est Guillaume Trace, en fait, qui a repris ça. Et qui a donc chorégraphié principalement le combat sur Tatooine.
Excellent. Donc,
il a chorégraphié ça, et puis donc le deuxième combat a été fait sur ses conseils, sur ses consignes. En fait.
Est-ce que c'est tous des combats à l'extérieur, ou il y en a qui vont être à l'intérieur de décors numériques?
Il y en a un, voire trois. On ne sait pas encore. On a un décor qui est en suspens pour l'instant.
D'accord.
Soit on a le décor réel, et donc il y en aura un en décor numérique. Soit on continue sur la lancée qu'on a actuellement, c'est-à-dire qu'on va tourner les décors sur fond bleu là au mois de septembre, et on aura trois combats sur un décor numérique.
Excellent.
Et le seul décor réel qu'il y a, c'est Tatooine.
Excellent. Maintenant, on va aller plus dans des questions concernant le tournage en tant que tel, la production. Le premier tournage dans la salle à manger de Lionel Bougaud a été qualifié de désastre. Peux-tu me donner plus de détails là-dessus? Avez-vous reconsidéré la poursuite du fan film à ce moment-là?
Alors, ça, c'était, ouais, le tout premier tournage, en fait, on partait complètement à l'aventure. Donc, on avait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais rassemblé, donc, un des rôles principaux de notre grand maître Jedi, en fait, c'est mon père.
D'accord.
Donc, qui ne connaît absolument rien à la guerre des étoiles. Qui s'est d'ailleurs rendu célèbre au cours de ce tournage pour dire G.I. au lieu de Jedi.
Ok.
Et en fait, on arrivait chez Lionel, on avait rien en fait. On rencontrait Vanessa vraiment pour la première fois, on n'avait pas de fond bleu, il a fallu monter un fond bleu. On avait donc trois acteurs, on avait le Wookiee, le grand maître Jedi et puis un autre maître. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas d'éclairage, on avait une petite caméra simple, enfin on n'avait rien. En fait. au final, quand on s'en est sorti, après une bonne demi-journée de travail et de galère, entre guillemets,
ouais.
On a vu les rushs.
Mm-hmm.
Et là, on a eu un gros moment de découragement. Enfin, c'est pas vraiment du découragement, on a eu un gros moment où on s'est dit « Ah oui, quand même ah. !» Donc, c'est là qu'on a commencé de prendre conscience qu'il nous fallait absolument un fond bleu.
Mm-hmm.
Après un grand moment de fou rire, il faut bien le dire.
Avez-vous justement reconsidéré poursuivre le fan film ou l'abandonner à ce moment-là?
On n'a pas pensé l'abandonner. Je pense que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme l'a dit Stéphane, on a eu de grands moments de fou rire.
Mm-hmm.
Et on s'est dit, bon, bah, allez, de toute façon, autant tenter l'aventure, on est lancé. Donc après chacun de nos tournages, en fait, on fait un compte rendu.
Mm-hmm.
Donc là, on a fait un compte rendu un peu particulier, c'était le premier. Et on a listé tous les problèmes qu'on allait rencontrer, en fait.
D'accord.
Avec, il fallait un fond bleu, les problèmes d'éclairage, on a brûlé un filtre ce jour-là. Mm-hmm. En fait, les éclairages, c'était les halogènes de Lionel qui étaient posés, couchés sur les canapés. Enfin, c'était une catastrophe. penser à enlever ses lunettes quand on tourne, ça paraît tout bête comme ça.
En effet.
Et on y pense pas forcément.
Mm-hmm.
Et donc, le résultat a été que, non, on s'est pas dit, on abandonne tout. Non, on s'est dit, bon, on continue, sauf que va falloir qu'on trouve, va falloir qu'on, a, qu'on trouve des gens qui aient les qualifications pour nous aider un peu plus.
D'accord.
Non, il n'y a pas eu le découragement. Bon, après, on s'est dit, on va attaquer en décor naturel, on a un peu de temps. Bon, il y a Vanessa qui nous a proposé, donc à ce moment-là, qui a réussi à avoir le fond bleu de son lycée.
Mm-hmm.
Donc, il y a eu deux tournages qui ont suivi, qui se sont très très bien passés, où, où l'équipe s'est vraiment, en plus, il y a toute une partie de l'équipe qui s'est vraiment soudée à ce moment-là. Et donc, on a dit, bon, bah, c'est parti, on est lancé, on va au bout maintenant. Donc, on surmonte les difficultés, puis on va au bout. Sinon, on n'y serait pas arrivé.
C'est super.
Si la moindre difficulté, on avait baissé les bras, on s'en serait pas là. Ça a eu pas mal.
En effet. Quel type de caméra avez-vous utilisé?
Alors, c'est du DV, en fait.
Mm-hmm.
Donc, au tout départ, c'était la petite caméra de, familiale.
Mm-hmm.
Et là, là, on a un des participants qui est donc Eric Reynaud, donc qui est fan de vidéo, qui nous a fait la joie d'investir pour lui dans une super bonne caméra.
Excellent.
Et ça, à l'arrivée de ça, plus le matériel, le son qu'il avait, plus le matos de vidéo, ça nous a permis de, donc maintenant là, on a vraiment du DV de très très bonne qualité.
Excellent. Certains lieux de tournage demandait sûrement des approbations. Comment réagissaient les propriétaires des lieux non publics face à vos demandes pour un film de Star Wars?
Bien.
Bien.
Non, on a en autorisation, ben c'est surtout, on a eu l'Eurospace Center.
Mm-hmm.
Apprendait le plus parce que c'est quand même un très très gros plateau.
Ouais.
Le plateau du Space Center, il est énorme.
Mm-hmm.
Et j'appréhendais un peu le refus de la part de la personne. Donc, c'est en janvier qu'on s'est déplacé là-bas.
D'accord.
On est parti en Belgique avec Vanessa et Rémi. Et on a rencontré donc Charles Debeff sur place. Puis on lui a expliqué ce qu'on voulait faire. Puis bon, comme il l'a dit lui-même, il a été charmé comme beaucoup par la passion en fait qu'on avait dans le projet.
Mm-hmm.
C'est que ce qu'on voulait pas en fait, c'est puisqu'on veut toujours pas, c'est passer, on va dire, pour des gens qui font ça en prenant tout à la légère en fait.
D'accord.
Quand on arrive sur un plateau, tout est préparé. Enfin, c'est mon rôle et puis le rôle du reste mm-hmm. de l'équipe. Nos plans sont préparés. On a comme en Belgique, il nous fallait les autorisations de sortie du territoire, il fallait des papiers pour sortir avec des mineurs. Enfin, tout est cadré de manière à ce que il y ait pas un minimum de place, on va dire, parce qu'il y a toujours la place pour l'imprévu, en fait.
Mm-hmm.
Et ça, c'était la même chose pour quand on a négocié la carrière, là, pour Tatooine. C'est moi qui ai rencontré le gars, c'est pareil. On lui a présenté, en plus, à lui, des vidéos.
D'accord. Ça doit être un bon moyen de convaincre le propriétaire en montrant des extraits, etc.
Voilà, en montrant des extraits, en leur montrant déjà ce qu'on avait fait d'autre. Et puis, une chose qui joue quand même, à mon avis, énormément, c'est le fait que la plupart des gens qui sont sur le projet, on a dans la trentaine.
D'accord.
C'est pas un projet avec des 18 ans.
Mm-hmm.
Ça serait passé beaucoup moins, ouais, je pense, beaucoup moins bien.
Ouais, j'en suis certain.
Parce que au vis-à-vis des gens, bon ben, on a des gens qui sont plus âgés, donc plus responsables. Et puis bon, ils ont vu que sur d'autres tournages, on arrivait. Ça s'est toujours très bien passé.
Excellent.
Et à chaque fois qu'on a été voir les gens, c'est clair que je ne peux pas dire avoir vraiment rencontré. La seule difficulté qu'on a rencontrée, c'est les finances.
Excellent.
Ça a toujours été le problème.
Super. Tu nous as mentionné, je crois, un petit peu au début de l'entrevue. Avez-vous terminé le tournage et que reste-t-il à faire?
Alors là, on n'a pas fini les tournages. Il nous en reste deux gros tournages, on va dire. Enfin, un gros tournage, puis un peu moins important. Ils vont avoir lieu en septembre.
Mm-hmm.
C'est les combats.
D'accord.
Donc ça, sur fond bleu. Et le fameux Conseil Jedi, qui nécessite énormément de monde. Bon, ça nécessite les 8 maîtres, leurs 8 apprentis, la table du conseil, le fond bleu, plus les séquences additionnelles où ça, il y a besoin de chevaliers, du chancelier suprême. Enfin, on a besoin d'un quelques petites séquences en plus. Donc ça débloque énormément de monde, plus d'une vingtaine de personnes.
J'avoue que le problème de tous les amener au même endroit avec les horaires de chacun, ça sera pas évident.
Ah, déjà ça, et puis après on essaie, c'est comme, on n'a pas le budget, on n'a pas de budget à la base.
Mm-hmm.
Donc on essaie de réduire au maximum tout ça, tous les frais, donc il faut conseiller, les loger, il faut déjà réunir tout le monde à la même date, c'est pas évident. Après, il faut loger ceux qui viennent de loin, parce que bon, il y en a toute une équipe qui vient de Bourgogne quand même.
D'accord.
Il faut après prendre contact avec les gens du fond bleu, mais ça, c'est Rémi qui s'en occupe. Il faut être sûr d'avoir le fond, il faut être sûr d'avoir le matériel, il faut être sûr d'avoir la table, donc qui est en ce moment en charge à Ludo.
Mm-hmm.
Et donc il faut être sûr de tout avoir en fait. Il faut que le jour du tournage de le 18 et 19 septembre, on ait la totale. Qu'il soit prêt. Bon, il y a des gens comme le chancelier en fait, à la base c'est un médecin.
D'accord.
Donc il faut pas qu'il ait de garde.
En effet.
C'est super compliqué à ce niveau-là.
Ouais, j'avoue. Combien d'heures de tournage avez-vous jusqu'à présent de filmer?
Alors là, je sais même pas exactement. Je crois, d'après ce que l'on m'a dit cet après-midi, une trentaine d'heures.
Oh, mon Dieu.
On a beaucoup de cassettes, oui.
Ça va être plaisant de tout repasser ça.
Je plains surtout Rémi qui lui se tape toutes les cassettes pour faire le montage. Bon, dans les cassettes, c'est pareil, sur nos tournages, c'est super bon enfant, donc il y a les bonnes séquences, mais il y a aussi tous les petits délires qui partent, en fait, toutes les séquences qui partent en live derrière.
D'accord. La post-production maintenant, les effets spéciaux que j'ai eu la chance de voir sont très réussis. Est-ce que ceux qui s'en occupent ont de l'expérience professionnelle dans le domaine?
Professionnel, je sais pas. De l'expérience, oui. La plupart maîtrisaient déjà les logiciels ou... Maintenant, professionnel, je sais pas du tout. Je crois pas. Okay. Je crois pas qu'il y en ait un seul qui bosse vraiment dans les effets spéciaux.
D'accord.
Il y en a qui bossent dans le milieu, dans le montage, dans les choses comme ça.
Mm-hmm.
Mais au niveau SFX, je pense pas qu'on ait vraiment de professionnels là-dedans.
Excellent. Donc, c'est quand même plaisant d'avoir des personnes aussi expérimentées, là.
Ben ouais, ben disons que c'est beaucoup de chance en fait. Il y a eu un petit moment de flottement quand Olivier Couston est parti parce que ben il touchait en 3D.
Mm-hmm.
Bon, on a eu Claude Girard qui arrivait par dessus et qui a relevé haut la main, on va dire, le défi de la 3D. Il a repris à partir de du travail qu'avait fait Olivier, il a décuplé au centuple le travail qui a été fait. Les séquences qu'il nous envoie, elles sont superbes. Donc, il n'y a pas photo. Puis plus tout le reste de l'équipe, il y a beaucoup de gens qui viennent d'une école de Valenciennes. Bon, c'est pareil, c'est des étudiants qui sont impliqués là-dessus.
C'est un très bon projet pour des étudiants. Hein.
Ouais.
Dans le fond.
C'est vrai que ça fait un sacré beau projet, ouais.
Exactement. Justement, combien de
personnes... Même s'il se pose toujours le problème d'être dans Star Wars, donc sous licence, donc pas, on peut pas faire d'exploitation vraiment commerciale dessus.
Mm-hmm.
Mais bon, ne serait-ce qu'un peu en carte de visite, en projet amateur, c'est royal.
Exactement.
Ouais, c'est intéressant.
Justement, combien de personnes travaillent sur les effets spéciaux?
À peu près une quinzaine, je pense.
Oh, c'est quand même beaucoup.
À peu près.
C'est quand même beaucoup.
À peu près. Hein. Ils sont coordonnés, là, toute l'équipe 3D actuellement est coordonnée par Claude Girard et Rémi Hoffman. Donc c'est eux qui, on va dire... Ludovic supervise et donne les consignes en fait, et c'est Rémi et Claude qui centralisent un peu tout le travail qui a été fait et qui redispatchent après.
Excellent. Est-ce que vous savez combien de scènes ou prises de vue comportent des effets spéciaux?
Alors, comportent des effets spéciaux, j'en sais rien du tout. C'est un 113 plans purement 3D sur à peu près 700 plans du film.
D'accord.
C'est 113 plans où il n'y a pas d'acteur, c'est que de la 3D. Après, le reste, il y en a pas mal parce que il y a quand même pas, on va dire, sur le reste des plans, il y en a une bonne tiers facilement, voire plus, où il faut incruster les sabres,
mm-hmm.
faut incruster les blasters, les tirs, tous les petits effets sur les maquettes nécessaires, la lumière, les trucs comme ça, l'incrustation dans le cockpit de l'espace derrière, enfin mm-hmm. toutes ces choses-là.
Donc, quand même, un bon 50% certain.
Oh oui, ah bien, oui, peut-être même plus que 50%. Ouais. Entre la purement 3D et puis ce qui nécessite de la 3D, je pense qu'on est à plus de 50%.
Excellent. Est-ce que vous avez besoin de participants supplémentaires pour aider à la post-production? Si oui, qui les intéressés doivent-ils contacter?
Ah ben, s'il y a des gens volontaires pour nous aider au niveau de la 3D, je pense qu'on peut toujours trouver un petit travail à faire. Même au niveau, ne serait-ce que peu près, il y a tout le travail de l'univers étendu qui n'est pas fait encore.
Mm-hmm.
Donc, c'est vrai qu'on est, s'il y en a des spécialistes de l'univers étendu, on prend tout ce qui est dessin aussi, mm-hmm. actuellement. Parce que bon, là, on est en train, il y a un jeu de rôle qui est prévu.
D'accord.
On aura besoin de bosser aussi sur les illustrations. On a une partie qui va être faite par Stéphane et par Laurent.
Mm-hmm.
Bon, vu le travail que ça demande, s'il y a des gens qui savent dessiner, on est preneurs. Hein.
D'accord, et comment...
Le mieux, c'est soit Ludo,
D'accord.
Soit moi.
Et puis.
Ah, pour tout ce qui est univers étant, tout ce qui est effets spéciaux, vaut peut-être mieux contacter Ludo au départ.
D'accord.
C'est plus lui qui a la, qui a ça en, en main. Moi, j'y connais pas grand chose en plus.
D'accord. Son email, c'est.
C'est
lud@ordresite.com.
Voilà, c'est ça. C'est lud@ordresite.com.
Ok. Et le tien?
Et le mien, c'est Yann.
Yann.
yann@ordresite.com.
Parfait. J'ai vu sur une photo présente sur le site web que le montage était fait dans de vrais studios professionnels. Comment était l'expérience et à quel point ceci facilite-t-il vos tâches?
Disons qu'on a eu la chance d'avoir un de nos monteurs qui bosse dans le milieu, donc qui ont le studio, enfin nous a prêté les locaux. Donc on a eu la chance de pouvoir, enfin moi j'y étais pas, mais Ludo, Vanessa et puis une partie de l'équipe ont pu travailler sur la post-synchronisation là-bas.
Mm-hmm.
Apparemment c'était bien, c'était vraiment excellent. Maintenant très dur.
je vais
passer aussi parce que j'ai des scènes à post-synchroniser, donc je vais goûter à ça aussi.
Mm-hmm.
Très très dur parce qu'en fait on a le matériel, donc on est dans une pièce qui est vraiment adaptée à ça.
Mm-hmm.
Et une pièce sans écho, donc refaire les voix là-dedans c'est apparemment assez perturbant. J'ai pas encore goûté, j'appréhende quand certains de nos acteurs comme mon père vont se retrouver là-dedans parce qu'il a aucune expérience là-dedans.
Il faut pas être claustrophobe.
mais bon, c'est, je préfère, autant comme on le dit clairement aux gens, ça va pas être facile.
Mm-hmm.
Comme ça, ils se préparent et puis vaut mieux qu'ils soient surpris dans l'autre sens que d'arriver. On a trop connu de difficultés sur les plateaux maintenant pour
reculer.
Pour prévenir. Un tournage comme on a fait sur Fond Bleu. Le tout premier, mon père y était, c'est okay. Sa pire expérience, il l'a pas caché.
Mm-hmm.
Ils ont tourné en costume de Jedi par 50 degrés sur le plateau.
Ouch.
Donc, on préfère prévenir les gens quand ils viennent tourner maintenant, on leur dit, faites gaffe, vous allez tourner à 50 degrés sur le plateau. Ça va être dur. Le tournage, le conseil Jedi va être très dur pour ça.
D'accord.
Donc, le conseil Jedi sera d'autant plus dur s'il y a des enfants dessus.
Mm-hmm. C'est excellent. Maintenant, je vais parler du lancement dessus, mais de l'après-lancement, si on peut dire. Jusqu'à présent, quel est le budget approximatif déployé par les participants, car on sait que c'est leur propre argent. Donc, approximativement, est-ce que c'est calculable?
Calculable, non. Ce qu'on peut calculer, c'est que au sein de l'association, on a dû sortir à peu près 400 euros.
D'accord.
Après, c'est pas chiffrable.
Okay.
Donc, on peut pas chiffrer les heures passées à travailler sur le film.
Mm-hmm.
Parce qu'il y a des heures et des heures de boulot pour une grosse partie de l'équipe. On ferait aller jusqu'à chiffrer le matériel utilisé pour la 3D, ferait chiffrer tous les déplacements. Il y en a quelques-uns qui sont venus comme les Bourguignons et sont venus une dizaine de fois sur Paris pour les tournages.
Mm-hmm.
Il y a tout le... Enfin, comme les maquettistes, les maquettes qu'ils ont fait, même si c'est que de la récupération, il y a des heures de travail de passer dessus... C'est pas réellement chiffrable en fait. On va dire que beaucoup ont investi, presque Eric dans la caméra.
Mm-hmm.
Dire, c'est un des paramètres qu'il faudrait prendre en compte et qu'on peut pas prendre en compte.
D'accord.
C'est pour notre plaisir. On l'a fait parce que ça nous faisait plaisir de le faire. Les costumes que Sylvie a fait, la plupart des tissus, c'est elle qui les a financés. C'est du tissu, comme le tissu du chancelier, c'est des tissus qui valent plusieurs dizaines d'euros le mètre.
Mm-hmm.
Ah, c'est, à côté de ça, elle a trouvé des tissus à 50 centimes le mètre.
D'accord.
Donc, c'est difficilement, enfin, chiffrable, je pense que c'est pas possible et ça le fera jamais.
D'accord. Quelle est la réaction des fans et du public lorsque vous présentez le film lors des conventions et événements?
Le film est apparemment hyper attendu par les fans.
En effet.
On peut le dire. Maintenant, bon, c'est ce qu'on s'acharne à dire aussi. Ça reste un film amateur.
Mm-hmm.
On n'a pas les moyens ni de Lucasfilm ni de Weta Workshop, pour le Seigneur des Anneaux.
Mm-hmm.
On est que des amateurs avec des petits PC perso, des PC un peu plus professionnels entre guillemets. Ça reste des PC, la plupart des PC de travaux de mm-hmm. travail normaux. Donc, on n'aura pas la qualité d'un Star Wars épisode 4, 5, 6,
non, c'est...
voire 1 ou 2. Mais bon, on espère pouvoir donner aux fans ce qu'ils attendent.
D'accord. Ben, moi j'ai vu seulement des.
Pas le plaisir déjà de se voir, à l'écran. Il y a Diana. Bon, même s'il y a les rôles sont un peu répartis. Il y a beaucoup de figurants.
Mm-hmm.
Mais au niveau acteur, on est 74 acteurs et figurants.
Mon Dieu.
Pour on va dire 10 rôles, 10 gros rôles.
D'accord.
Quelques rôles un peu plus petits et beaucoup de figurants.
Mm-hmm.
Mais même les figurants, je dirais, ceux qui vont apparaître même 10 secondes à l'écran, ou même peut-être, même pas 10 secondes,
mm-hmm.
Joanne, tous ceux qu'on a dans les cockpits. Hein.
Mm-hmm.
On a toute une équipe, dans les cockpits là, pour les Républicains. C'est des gens qui sont membres de la Ligue francophone X-Wing.
D'accord.
Donc, on a absolument bon tenu parce que bon, notre webmaster étant membre, on a trouvé intéressant de leur donner la possibilité de rentrer dans leur cockpit une fois, autre que derrière l'écran.
Mm-hmm.
C'est vrai que bon, leurs prestations, on voit qu'ils sont à l'aise à fond. Donc, ça, même la petite prestation, ça rend crédible. Nos Jedi qu'on va voir Grégory Morelli ou Yann Bridier ou tous ces gens-là qu'on verra en fait peut-être que quelques secondes à l'écran. C'est quand même les pilotes qu'on verra en plein combat.
Mm-hmm.
Ça donne, on va dire, autant d'importance qu'un Vage Antilles ou qu'un Big Star Fighter dans l'épisode 4.
Excellent. Avez-vous une anecdote à nous raconter ou un bloopers par rapport au tournage qui possiblement sera sur le DVD?
Mon Dieu, il y en a beaucoup.
Peut-être
à raconter parmi tant d'autres.
Les principaux, peut-être.
Le principal, mais il y en a beaucoup. On va dire, à chaque tournage, il y a toujours quelque chose qui se passe. Donc, c'est...
Choisis-en un au hasard.
Si, je pense que, à mon avis, ouais, celle qui a marqué le film depuis le début, c'est la première intervention de mon père sur le film.
D'accord.
Avec, où dans son dialogue, il devait dire, je me demande si c'est une bonne idée d'envoyer des Jedi au combat. Et il nous a sorti allègrement, je me demande si c'est une bonne idée d'envoyer des GI au combat.
D'accord.
Et ça, c'est suivi d'un gros fou rire sur la caméra, parce que bon, personne n'a pu se retenir.
Mm-hmm.
Bon, ça c'est qu'une parmi tant d'autres. On en a en pagaille.
C'est excellent.
Et après, il y aura, le plus dur sera surtout de faire la sélection avec tout ce qu'on a, de faire une sélection des, on va dire, des meilleurs.
D'accord.
Juste des petits délires, on va dire, faits en plus.
Des petits délires locaux entre vous.
Entre nous, voilà.
D'accord.
Où les scènes où on a changé les textes, le temps de la tournée, parce qu'on avait un texte marrant à dire. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui sont sortis.
Mm-hmm. D'accord. Justement, il va y avoir un DVD de fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer voir sur le DVD?
Le film.
Oui, entre autres, j'imagine.
Non, normalement, justement, on a une réunion début octobre pour définir précisément ce qu'il y aura. Déjà, le film et tous les suppléments,
mm-hmm.
c'est-à-dire le roman devrait pouvoir le récupérer sur ordinateur.
D'accord.
Les fiches univers étendues, le jeu de rôle, il y a un guide sur le film aussi qui est prévu, et un guide sur les vaisseaux.
Mm-hmm.
Ça devrait être récupérable sur le DVD. Il y aura les teasers,
pas
d'annonce,
mm-hmm.
c'est prévu pour normalement la fin de l'année. On aura des séquences qui auront été tournées sur le travail des maquettistes et des diverses personnes,
mm-hmm.
Des petites séquences qui ont été tournées par la caméra making of.
C'est ça. Vous avez une équipe qui fait un making of en même temps?
Ouais. Ah, une équipe, ouais. Il y a une équipe qui bosse là-dessus. Lionel Bougot qui avait ça en charge, donc film et photo surtout.
Mm-hmm.
Et Eric Reynaud qui est en charge majoritairement la vidéo. Et qui s'occupe des montages de tout ce qui va être interview, les interviews des principaux protagonistes, acteurs et tout ça. On aura les petites vidéos remontées ou repost-synchronisées avec des textes complètement loufoques par-dessus qui sont sortis. Je pense, on va essayer de voir si on peut mettre toute une banque de données avec des images, des tests affiches, des dessins de pré-production, comme par exemple le dessin du chancelier, le costume a été designé avant d'être fait. Enfin, il y a quelques, la plupart des costumes, c'est les gens qui ont participé au film qui les ont apportés. Mais il nous fallait quelques costumes bien spécifiques. Un chancelier suprême, il fallait le dessiner. La chambellan, il fallait la dessiner, il fallait le maître Jedi, il fallait un costume à part.
Mm-hmm.
L'un des Sith, il fallait un costume bien à lui. Bon, tout ça, c'était dessiné. Il y a des maîtres Jedi, ils ont leur costume fait, on va dire, sur mesure. Donc je pense qu'il pourrait être intéressant sur le DVD de montrer tout de quoi on est parti, en fait, et où on est arrivé, en fait.
C'est excellent.
Il y a une des villes de Tatooine, le design de base, il vient des Art of épisode 1.
D'accord.
Après, ben, le but, c'est de reprendre le Art of, de le remodifier à notre sauce, mm-hmm. et de donner à l'écran ben, la ville.
Excellent.
Mais je pense qu'on va essayer sur le DVD de montrer justement cette évolution du, ben, dire du rêve, parce qu'au départ c'était un rêve, jusqu'au final où on a réussi avec nos peu de moyens à faire quelque chose qu'on espère tiendra la route.
C'est vraiment super ça. Avez-vous l'intention de faire une version avec sous-titres anglais ou doublé en anglais pour mettre en valeur votre film face à la communauté de fans internationales et américaines?
Alors les sous-titres, ouais, c'est possible.
D'accord.
Le doublage anglais, ça, je vais vous laisser avec Stéphane.
D'accord.
le doublage en anglais, ça effraie énormément Yannick.
D'accord.
Et c'est quelque chose qu'il envisage avec une terreur, mais non dissimulée. Parce que lui, l'anglais, ça fait quelque chose comme beaucoup.
Mm-hmm.
Et il a très très peur d'avoir... Mais pourtant, il joue très bien. Hein. C'est un très très bon acteur. Hein. C'est incroyable. Mais visiblement, la langue de Shakespeare ne m'inspire pas tant que ça, en fait.
D'accord.
Et à vrai dire, le doublage, la question s'est pas vraiment vraiment posée jusqu'à présent, mm-hmm. puisque bon, déjà le film il n'est pas encore fini, il y a encore vraiment beaucoup de boulot dessus.
Mm-hmm.
Mais c'est vrai que si on veut toucher la communauté des fans de Star Wars, le mieux, c'est vrai que ce serait de pouvoir le mettre en doublage anglais pour avoir une plus large audience, c'est sûr.
Et surtout le fait que c'est un long film et qu'il risque d'être de très haute qualité, c'est certain qu'avec un doublage anglais, même s'il n'est pas fait par des Français de naissance, pourrait avoir un bon résultat seulement pour les voix, là, je parle.
Ouais, oui, ça, de toute façon, c'est une chose qui sera certainement étudiée. Mm-hmm. Et puis, c'est vrai que tout le monde n'a pas l'aisance... demandé pour se doubler lui-même en anglais, donc c'est vrai que ça, c'est une question qui sera peut-être amenée à se poser avec Ludo et puis le reste de l'équipe quand le projet sera vraiment bien avancé et certainement proche de la fin.
Mm-hmm. Donc, commencez par terminer le fan film et après vous...
Voilà, déjà, on va essayer de le finir en français et bien.
Exactement.
Et puis après, on envisagera de s'ouvrir à l'anglophone.
Exactement. Merci, Stéphane.
Ben, je te repasse, Yannick.
Ouais.
Oui.
Bon, on continue. Est-ce qu'il y a une date précise de prévu ou une date de sortie approximative?
Précise, non. Approximative, mai 2005, on va dire.
D'accord.
Normalement.
D'accord. Est-ce que vous êtes sur le bon chemin pour que ça soit...
S'il n'y a pas d'autres difficultés, parce que là, les deux grosses difficultés qui vont se poser maintenant, c'est toute la post-synchronisation.
D'accord.
Et surtout la musique.
Mm-hmm.
On a toute la musique à mettre en place et l'enregistrement, parce qu'on a un chœur sur une des musiques, donc l'enregistrement du chœur.
Mm-hmm.
Donc, qui pour l'instant nous pose un léger problème.
D'accord. Bon.
Enfin, c'est pas que ça nous pose de problème le chœur en lui-même, mais c'est l'enregistrement.
Est-ce que la musique que l'on entend dans le teaser... est un extrait de la musique composée ou c'est un extrait qui existe déjà?
Ça dépend duquel. Le teaser avec le logo rouge là qui part du bas en haut, c'est une musique composée.
Ah ok, c'est ça que c'est.
Sachant qu'elle est pas, c'est pareil. Elle a été, en fait, le teaser c'était un peu particulier, c'est qu'il nous fallait pour le CRV.
D'accord.
Et fidèle au reste du film, on va dire. On a enregistré la musique sur le PC à partir du synthétiseur la nuit, deux jours avant, avant de servir. On a bossé, donc le musicien était chez moi, Vanessa était chez moi, donc avec le teaser. Et on a bossé, il a bossé devant la télé et à l'arrache, le pauvre. Tout ça va être retravaillé et après il y a tout le côté symphonique qu'il va falloir donner.
Mais ça avait quand même déjà, ça sonnait très bien déjà donc...
Ah, merci. Je transmettrai aux musiciens.
De quelle façon le film serait-il diffusé lors de la sortie? Étant donné que c'est un film de 90 minutes, j'imagine que ça ne sera pas en un seul fichier.
Ah non, ça ne sera pas en un seul fichier, non. C'est une question qui a été évoquée il n'y a pas longtemps. Donc il sera diffusé sur le web, ça c'est
d'accord.
Sûr. en plusieurs fichiers, ça c'est sûr. Le poids de chaque fichier, les coupures entre les fichiers, on ne sait pas encore exactement ce qui va se passer.
Mm-hmm.
On aura la diffusion sur le DVD.
D'accord.
On espère pouvoir le diffuser sur un grand écran. Au moins le temps d'une ou deux séances pour que nous on puisse le voir.
D'accord.
On ait ce plaisir là. Et puis, on devrait pouvoir avoir la chance d'avoir des diffusions un peu partout au sein de certains festivals.
Excellent.
Je parlerai là pour, par exemple, le Festival des Mômes en Bourgogne. On a une des personnes qui joue au Conseil Jedi qui s'occupe de ça et qui nous a proposé, si ça nous intéressait, de le diffuser. Et donc, nous, l'intérêt qu'il y a, c'est que non seulement on diffuse de films, mais ça permet d'amener des acteurs en costume pour les gamins et tout ça. Ça peut être intéressant.
En effet.
Une animation en plus.
Ça serait vraiment bien.
Donc,
justement, comme festivité officielle de lancement pour l'autre site, qu'est-ce qui serait ton rêve comme lancement officiel?
Hollywood.
Non, raisonnablement.
Non, c'est Montréal ou Québec. Mais ça aussi, je suis preneur. Comme festivité, ce serait d'avoir la diffusion au cinéma au moins une fois, voire deux fois.
Mm-hmm.
Au moins, les gens de l'équipe puissent voir le résultat une fois sur un écran géant.
D'accord.
Et avec le petit cocktail qui va derrière, pour le petit cocktail, pas de fin de projet, parce que s'il sort en mai, le projet ne s'arrêtera pas tout de suite, parce que le DVD ne sera pas prévu avant octobre. Donc, on peut dire que le projet prendra fin réellement avec le DVD.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en octobre, sortie du DVD, là, je pense qu'il y aura de la festivité où on dira stop, on a fini.
D'accord.
Là, l'ordre site, ça s'arrête. C'est la fin d'une aventure.
Exactement.
C'est l'aventure.
Vous avez un site web dédié au film, www.ordresite.com.
Oui.
Que peut-on y retrouver en général pour ceux qui ne l'auraient jamais surfé?
Alors, dessus. Alors, en ce moment, on est en train de finir de mettre le contenu. Benoît est en train de finir de mettre le contenu. Dedans, on peut trouver tout le listing de ceux qui participent au film, tous les comptes rendus de nos tournages, des photos, des reportages, des informations sur les départements, donc les maquettes, le département, comment a été créé tel truc. Tel que ça peut donner des idées aussi pour aider les gens à le faire. Le teaser, des photos, je crois, on peut trouver dessus.
D'accord.
Et surtout le forum. C'est notre grosse source de travail, c'est ça, c'est le forum.
C'est votre moyen de communication.
Ah ouais, c'est le gros moyen de communication avec l'équipe est dispatchée un peu partout.
D'accord.
Thierry et Cécile Huissier, c'est nos maquettistes qui sont eux dans les Alpes, dans les Hautes-Alpes. On a donc Ludo qui lui est en Bretagne, Benoît en Bretagne. On a toute une partie de l'équipe sur Paris, mais un peu partout aux quatre coins de Paris.
D'accord.
Voire en banlieue parisienne. Donc, c'est clair que pour passer une information comme un tournage, je prendrais l'exemple du Aerospace Center, où ça nécessitait de gros déplacements en Belgique avec des voitures, avec tout le bazar. Heureusement qu'on avait le forum pour passer les informations.
D'accord, on va maintenant passer...
C'est la source de travail principale.
D'accord. On va maintenant passer aux questions que nos fans ont laissées dans le chat pendant l'entrevue. Donc, Sébastien va te lancer les questions.
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, en fait, je vais commencer avec une question de moi-même. Vous avez parlé d'un roman plusieurs fois au courant de l'entrevue avec Danny. Le roman fait combien de pages?
Alors, le roman version pocket est à 214 pages.
214 pages, d'accord. Ouais,
version pocket, hein?
C'est excellent, quand même.
C'est
énorme, ouais. c'est vraiment énorme.
Effectivement. Alors, notre technicien Raven qui voulait savoir quel matériel avez-vous utilisé pour la prise de son et quel logiciel pour le mixage?
Ouf, alors là, c'est une bonne question. En matériel, on avait une mixette. Alors moi, j'y connais pas grand-chose, donc ça va pas être évident.
Okay.
On avait une mixette avec nous, avec micro-perche et tout ça.
D'accord.
Donc, le son est pris sur la cassette directement, plus relié à un micro-perche.
Mm-hmm.
Et pour les séquences en extérieur, ou même avec la perche captant énormément les sons alentours aussi.
D'accord.
Les bruits parasites. Donc après, c'est en fait au studio, où quel logiciel ils utilisent, je n'en sais rien du tout.
D'accord.
Je sais pas du tout. Mais c'est donc au studio où on fait la post-synchronisation du son, en fait.
D'accord.
Alors, quel logiciel? Je sais pas du tout.
C'est
ouais, à la rigueur, pour avoir les informations, on a une section sur le forum, question à l'équipe.
D'accord.
Posez directement une question là-bas et les mecs, nos spécialistes de l'équipe seront plus à même pour répondre que moi en fait.
Excellent.
D'accord. Est-ce que vous avez utilisé quelques musiques Star Wars ou quelques bruits déjà existants de la trilogie originale?
Au final, dans le film, il n'y en aura pas à part la musique d'introduction. On ne peut pas passer.
Écoute.
Et on espère que normalement elle sera reprise quand même. Mm-hmm. Enfin, ce sera pas, on va pas dire, on n'a pas pris un des albums de Star Wars pour copier la musique.
D'accord.
Elle sera rejouée de toute façon. Mais le thème qui va être constant avec tous les Star Wars, c'est la musique d'introduction pendant le défilant en fait.
D'accord.
Ça on peut pas y couper. Après pour le reste, toutes les musiques seront intégralement faites originales.
Et puis côté effets sonores, comme les sabres laser, les lasers, etc., est-ce que ça aussi, ça va être emprunté?
Oui, ce sera. C'est, en fait, c'est repris par Nicolas Signa.
D'accord.
Nicolas Signa. Donc, il lui a la lourde tâche, en fait, de redonner ce son. C'est-à-dire que, vu que la plupart des séquences sont post-synchronisées, on va avoir une image, un son hyper fluide au niveau de la voix,
mm-hmm.
mais après, on n'a plus rien.
D'accord.
C'est lui qui a la charge en fait. Alors comment il travaille, je sais pas.
Mm-hmm.
Il utilise des sons Star Wars de toute façon.
Mm-hmm.
Ça c'est sûr. Après il mixe tout ça à mon avis pour donner le rendu.
L'ambiance.
On a une de nos séquences où on a pu voir ce qu'il faisait.
Mm-hmm.
On a l'image plus le son dessus. Une des premières séquences qu'on a tournées, ça rend vraiment, enfin ça rend très très bien. sur le la bande annonce le teaser de 3D,
ouais.
Principalement 3D, tout le son est refait par Nicolas.
C'est excellent. Une autre question, Seb?
Certainement. Alors, Raven qui demandait si le film sera disponible seulement en téléchargement. On sait qu'il y a la question de DVD pour les droits d'auteur. Je vais faire le suivi de sa question. En fait, c'est est-ce que le DVD va être disponible en format Amérique du Nord? Est-ce qu'il va être disponible ici aussi?
Pour l'instant, le DVD, il y a donc le problème des droits d'auteur. Donc, ce qui se passe pour les droits d'auteur, c'est que tant qu'il n'y a pas de commerce de fait sur le film, il n'y a pas de droits d'auteur, en fait. Le truc, il est là. Donc, c'est vrai que pour l'instant, le DVD, on l'a vu pour nous, en fait, au niveau européen.
D'accord.
L'équipe aura le DVD, plus ceux qui voudront. Alors maintenant, c'est une bonne question, parce que c'est vrai que, honnêtement, j'ai pas du tout pensé que ça pouvait intéresser Outre-Atlantique.
Mm-hmm.
Là, franchement, j'y ai pas pensé du tout. Maintenant, de toute façon, le DVD, bon, il sera pas gratuit pour une raison évidente, c'est qu'il faut qu'on paye les supports aussi,
mm-hmm.
Le DVD vierge et tout ça.
Ouais.
Mais il n'y a pas de bénéfice de fait dessus, en fait.
Mm-hmm.
Le DVD, si le DVD il est à 2 euros au total entre l'impression de la jaquette, la boîte plus le DVD vierge, les DVD vierges, on le vendra à 2 euros.
D'accord.
Maintenant, c'est vrai que j'ai pas du tout pensé. C'est une question à soulever à notre équipe. Enfin, là, j'ai une réunion au mois de fin août là, avec l'équipe technique, c'est une question à soulever. Ouais.
Peut-être sur commande.
Ce sera uniquement sur commande. Hein.
D'accord.
Le truc, c'est que je crois que c'est au niveau de la zone, c'est pas la même zone outre-Atlantique.
Exactement.
C'est en zone 1, je crois.
Mm-hmm.
Et nous, on est en zone 2, donc je sais pas au niveau du format, il en est et quel travail ça nécessite en plus, en fait.
D'accord.
Donc ça, je poserai la question parce qu'éventuellement, s'il y a une demande, il n'y a pas de problème. On peut tout à fait envisager d'envoyer un DVD là-bas.
Excellent.
Il n'y a aucun problème. Hein. Mais bon, il faut avoir avec le support, avec le format, ce que ça implique en plus. C'est vrai que j'y ai pas du tout pensé.
C'est bon.
Est-ce qu'il va y avoir des commentaires audio de l'équipe de tournage sur la DVD?
Ouh, ça. Ah, je pense pas.
D'accord.
Je pense pas, non. Non, ça impliquerait beaucoup trop de travail et non, je pense pas.
D'accord.
Vous avez parlé de beaucoup de scènes de tournage à l'extérieur. Est-ce qu'il y a des environnements qui sont plus difficiles, comme dans la neige ou sous la pluie? Et comment est-ce qu'on se prépare pour tourner des scènes plus compliquées comme celle-là?
La neige, on n'a pas été confronté. La pluie, on n'est pas censé être confronté. Quand on était confronté, c'était pas prévu.
D'accord.
Non, l'environnement extérieur, le plus dur, c'est le bruit extérieur.
Okay.
Déjà ça. qui nécessite après tout le travail de post-synchro, alors qu'en studio, il suffit d'un silence et puis on a le doublage en direct. Il y a eu le problème quand on a tourné comme en Bretagne, ça nécessite le déplacement du matériel, les prises, il n'y a pas de prise.
Ouais.
Les batteries, il faut toujours slalomer entre les batteries. C'est une anecdote, mais en Bretagne, quand on a tourné la première fois, le midi, on a été mangé dans une crêperie et on a rechargé les batteries à la crêperie en fait, parce qu'on n'avait plus de batterie pour tourner l'après-midi. Mm-hmm. Et on n'a eu pas eu de chance, l'après-midi s'est mis à pleuvoir, donc on n'a pas pu tourner toutes les scènes qu'on voulait. Mais bon, ça c'est, on va dire, les aléas. L'extérieur, le décor naturel en extérieur, c'est bien, parce que ça donne de la dimension au film. Mm-hmm. Mais c'est très très dur à gérer en termes de matériel en fait. Oui, intérieur, c'est pas le même problème, parce qu'un décor intérieur, voilà, on a le décor, on a des prises, on a tout ce qu'il faut. L'extérieur, c'est autre chose. C'est vraiment difficile, parce qu'il faut vraiment penser non seulement à tout ce qui touche aux costumes, aux gens, aux autorisations, mais en plus à tout le reste. Plus la chose qu'on ne peut pas contrôler, la météo.
Exactement.
Et ça, sur au moins une séquence, on a un problème de couleur à ce niveau-là. C'est qu'on a alterné éclairci couvert toute une matinée.
D'accord.
Donc sur l'image, ça se voit peut-être pas en le voyant la première fois, mais nous qui avons vu les séquences des dizaines de fois, c'est clair que c'est flagrant pour nous maintenant.
Mm-hmm.
Mais bon, c'est aussi ce qui ferait l'amateurisme du film.
Excellent.
D'accord. Arcos, qui a deux questions en fait pour vous. Est-ce que tu trouves le responsable des sabres efficace? Est-ce qu'il donne des objets qui sont performants, qui ne cassent jamais, et est-ce qu'il les remet à temps?
Là-dessus, je pense qu'on peut sans problème tirer notre chapeau à Arcos pour le travail qu'il a fait. Parce que non seulement le matériel est performant, et on l'a même mis à rude épreuve. D'ailleurs, il aura l'occasion de voir une vidéo sur une des scènes où je joue, où on a légèrement modifié la fin et où je jette lamentablement mon sabre laser. Il a résisté. Donc bon, ça c'est bien, on va lui montrer, ça serait qu'il fait un peu mal au cœur, le pauvre. mais sinon, non, on a... Et surtout, le gros avantage qu'il y a avec Arcos, c'est qu'avec rien, il vous fait tout, en fait.
Ouais.
On l'a vu à l'œuvre au Catabar, par exemple, où on a eu des petits problèmes avec la machine à fumer. Il nous remet la machine à fumer, on n'a rien de temps. ces petits trucs-là, les sabres, c'est pareil. Les sabres, il nous a fait pas mal de designs différents qui collent avec ce qu'on lui demande, en fait. Mm-hmm. Le truc, il est là. Et toujours dans l'urgence, parce que forcément, on est toujours dans l'urgence.
Excellent.
Un truc qui, mince, il faudrait ça. Ouais, Pascal, il nous faut un casque Jedi. Ouais, vous voulez quoi? On aimerait ça. Bon, j'essaie de faire ce qu'il faut et on a toujours ce qu'il faut.
C'est bon.
Et d'accord. Là-dessus, c'est comme la plupart des gens, on va dire, de l'équipe, ils ont une manière de faire qui est toujours dans l'urgence, mais qui est toujours, on arrive à plein de niveaux, on arrive à trouver des trucs. On a eu un problème au Catabar avec une actrice qu'on n'avait pas. J'ai eu Louise Domingue dans la matinée. Deux heures après, ils nous ont ramené une actrice.
D'accord.
Enfin, c'est toutes ces petites choses-là qui font que, il y a de réels talents, déjà, d'improvisation sur le film.
Excellent.
Et la deuxième...
Heureusement qu'on les a.
Et la deuxième question, c'est quand est-ce qu'il va pouvoir récupérer les yeux de son Jawa?
ils sont à Paris chez Eric. Je les ai fait remonter. Normalement Eric doit me les ramener dans la semaine, donc à partir de la fin de la semaine, il peut récupérer ses yeux de Jawa, qui nous ont d'ailleurs bien dépanné aussi.
D'accord.
Il n'y a pas de problème à partir de la fin de la semaine, mais il prend contact avec moi et puis on conviendra d'un rendez-vous.
Excellent. Ensuite.
D'accord. Selon toi, les pires difficultés pour le film, c'est la post-production ou le tournage en tant que tel?
C'est pas les mêmes difficultés.
Okay.
Moi, à titre personnel, je vais dire les tournages parce que c'est mon boulot. Donc pour moi, mes grosses difficultés, c'est les tournages. Moi, passé le 19 septembre, mon boulot est fini. Hein. Mon boulot, il va s'arrêter à travailler sur le jeu de rôle, l'univers étendu, mettre en page l'univers étendu, et puis commencer de préparer la diffusion du film auprès de divers festivals. Après, moi, c'est fini. Maintenant, je connais pas trop le travail de la post-prod, mais j'aimerais pas être à leur place.
Okay.
Parce que quand on voit certaines séquences, comme on a tourné une séquence à l'Académie Jedi où ils ont un combat entre quatre personnes en sabre laser à faire, il faut qu'ils montent les lames, il faut qu'ils préparent ça, il faut qu'ils intègrent les vaisseaux dans l'environnement à la bonne taille, il faut... À mon avis, c'est pas un boulot... Moi, on va dire que c'est plus un travail d'organisation.
Mm-hmm.
D'organisation, de prise de contact, penser à tout, penser à qu'on va demander à tous les gens de venir... Après, eux, leur travail est plus derrière l'ordinateur, mais moi, c'est un travail que je serais foncièrement incapable de faire et de gérer.
Mm-hmm. C'est vraiment l'équipe d'effets spéciaux qui va envoyer toute la pression d'ici la fin.
Ah ben là, oui. Là, de toute façon, nous, on a eu la pression pour essayer de finir les tournages. C'est pareil, les mm-hmm. tournages au Conseil Jedi, on aurait pu se dire, bon, on les repousse en octobre ou novembre.
Ouais.
Bon, il y a le problème aussi qu'il faut qu'ils aient le temps de bosser, les gars, les effets spéciaux.
Ouais.
Et de bosser dans les temps.
Mm-hmm.
Donc c'est pareil pour le mec qui fait la musique. Là ouais. début septembre, Rémi doit nous donner un pré-montage du film qui mm-hmm. va partir au gars de la musique. Il a la lourde tâche en 4 mois de nous sortir la musique. Donc c'est clair que la pression. Nous on peut pas dire qu'on avait. Enfin moi je peux pas dire que j'ai eu la pression dans les tournages. La pression elle est le jour J.
D'accord.
Le jour J, de dire, mince, on a eu le problème au Space Center, on arrive au Space Center, il nous manquait les rallonges.
D'accord. Ouais.
Là, en Belgique, on n'a pas de rallonges, on est mal.
Mm-hmm.
Donc bon, c'était un raté. Ça va, Charles Debeuf a réussi à nous dépanner et puis on a réussi à s'en sortir. Mais là, la pression, elle est à ce moment-là. Moi, une fois que c'est terminé, je fais mon compte-rendu peinard dans mon coin et puis je m'attaque au tournage d'après. Alors que eux, la 3D, on va dire que la 3D, la post-synchro, le montage, enfin tout le travail de post-production... c'est vrai que la pression, ils l'ont déjà depuis un petit moment, mais on leur a jamais dit, il faut faire ça pour telle date. Il faut absolument, là maintenant, on va commencer de leur dire, hey, il nous faut ça, et hey, il faut ça.
Mm-hmm.
Là, c'est clair que ça va pas être évident pour eux là.
D'accord. Prochaine question.
Le film se terminera-t-il avec une ouverture vers une hypothétique suite?
Une
suite. Est-ce qu'on va non. pouvoir s'attendre à une suite?
Non.
Il y aura pas. Non. Non, non, il y aura pas. Dans le roman, il y aura l'hypothétique suite. En fait, au départ, il y avait une séquence qui était dans le film qui pouvait donner une hypothétique suite. Et à l'évolution du film, on a trouvé que ça gâchait en fait le final. Cette séquence-là gâchait le final. Et puis je pense que on est plusieurs à vouloir à pas vouloir poursuivre l'aventure d'un autre fan film Star Wars, pas dans l'immédiat. Poursuivre l'aventure cinéma, ouais, pourquoi pas. Mais déjà se diversifier sur autre chose.
Mm-hmm.
Et puis bon, je vais pas cacher non plus. Enfin moi de mon côté, c'est ce que je ressens moi. Là Star Wars j'en peux plus.
Oui je comprends.
J'en mange tous les jours depuis le projet a vraiment débuté. Ludo en a parlé en juin 2001.
Mm-hmm.
Donc depuis juin 2001, on a attaqué vraiment en début 2002. 2002, ça a été vraiment le lancement mm-hmm. du projet et depuis, on n'a pas touché terre.
Et tu as une vie personnelle aussi, j'imagine, n'est-ce pas?
Là?
Tu as une vie personnelle à tenir compte.
Ah oui, bah oui. Donc, pour tout le monde, c'est le problème. C'est qu'il faut goupiller vie privée, famille, travail.
Mm-hmm.
Personne, on va dire, ne bosse à 100% sur le film. On n'a pas de permanent.
Mm-hmm.
On rentre le soir du boulot, on planche sur le film.
Mm-hmm.
C'est le truc, il est là. Bon, quand on a la chance de pouvoir avoir 5 minutes au bureau, on essaie de faire des trucs du film.
Mm-hmm.
On rentre le soir, on bosse sur le film, on rêve du film.
Mm-hmm.
On va se coucher, on se dit, eh mince, j'ai oublié de faire ça. c'est vraiment une vie qu'on organise notre vie. Enfin, moi, je sais qu'on est beaucoup organisé notre vie, beaucoup par rapport au film. Ah bah, tel week-end, je peux pas, je suis pas dispo, je suis de tournage.
Mm-hmm.
Quand on planifie un tournage, on essaie de trouver un jour qui convient à tout le monde. Donc on essaie de prendre en compte un maximum les desiderata de certains,
mm-hmm.
de chacun. Et c'est vachement pas évident. C'est très très lourd, je pense, pour tout le monde.
D'accord.
Donc même pour le simple figurant qu'on va peut-être voir 10 secondes à l'écran, le jour où on l'appelle pour lui dire tiens, il faut tourner tel jour, on est content quand il nous dit bon ben j'avais un truc de prévu mais j'annule, je viens au tournage.
Mm-hmm.
Même si ce que je disais tout à l'heure, même si sa participation elle va durer 3-4 secondes, elle est nécessaire. Elle est ce qui va donner. On a toute une séquence à l'Académie Jedi où les Jedi on les entrevoit.
Mm-hmm.
Et sans la présence de tous ces Jedi, on n'a pas d'Académie.
D'accord. On va continuer avec d'autres questions plus en rafale cette fois-ci, donc réponds plus brièvement parce que ça fait quand même déjà 1h20 l'entrevue, donc.
Oh.
On continue, vas-y Sébastien.
Alors, je vais t'en poser deux en une. En fait, est-ce qu'il y a des liens avec la trilogie originale ou la nouvelle trilogie? Et est-ce qu'il y a des personnages connus de Star Wars ou de l'univers étendu qu'on va retrouver dans le film?
Non, aucun.
D'accord.
Aucun au niveau du film. Le seul élément qu'on va retrouver dans Star Wars réel des anciens, c'est le chasseur Hello qui apparaît dans les BD d'Héritier de l'Empire.
Okay.
Dans les BD de Dark Empire.
D'accord.
C'est le seul. En revanche, dans le roman, oui, il y a pas mal d'interactions avec Ben Skywalker et Kylo Ren.
Ok, ah. Excellent.
Intéressant. Il y a Kel Sigurd qui voulait savoir s'il y a des cascades dans le film.
À part les combats de sabre, pas trop.
Pas trop, donc il n'y avait
pas vraiment des cascadeurs.
Pas de cascadeurs, non, c'est ça?
Non, ce qui nous a manqué, c'est ça, c'est les cascadeurs et les effets pyrotechniques.
D'accord.
Et voilà.
Comment s'appelle le Mandalorien qui a l'armure de Boba Fett, demande Matab?
Son nom d'acteur?
Son nom d'acteur et son nom de personnage?
Son nom de personnage, c'est le Mandalorien.
Mm-hmm.
Son nom d'acteur, c'est Louis Domingue.
D'accord.
Corcho.
Ah, ok, d'accord.
D'accord. Et voilà, alors...
D'autres questions?
C'est tout pour les questions du chat, en fait.
Ok, moi je continue avec les miennes. Êtes-vous à la recherche de commanditaires pour aider le financement du long-métrage ou de partenaires pour la promotion de l'ordre Sith?
Alors, de commanditaires pour le financement, ben, maintenant, je pense qu'on est arrivé, bien presque à terme.
Mm-hmm.
Donc, on n'est pas contre, mais bon, c'est pareil, ça, faut voir avec CR2, en fait, qui chapeaute ça, c'est l'association.
D'accord.
Maintenant, de partenaires pour la promotion, s'il y en a qui veulent, je sais pas, au cours d'un festival ou quoi que ce soit, diffuser le film, c'est avec plaisir.
D'accord.
Bon, nous, on est preneurs et je vous dis, en plus, on peut voir pour voir avec eux dans ces cas-là pour amener des gens costumés, voir des maquettes, des choses comme ça.
Excellent. Quand aura lieu votre prochaine apparition publique et prévoyez-vous dévoiler de nouvelles images ou de nouveaux extraits vidéo?
Ah, notre prochaine apparition publique officielle, j'en sais rien du tout. On verra si on est invité au collector rendez-vous.
Ouais.
Si c'est le cas, il y aura une apparition à ce moment-là. Sinon, on verra aussi par rapport aux animations avec la LCF. Disons qu'il y a pas mal de personnes du film qui sont membres de la LCF.
D'accord.
Et donc, généralement, c'est au cours d'une de leurs animations qu'on vient et puis qu'on diffuser des nouvelles choses du film. Il y aura la bande-annonce.
Excellent.
À Noël, ça c'est sûr.
Donc, je termine là-dessus. Reste en onde. Je remercie toi et Stéphane d'avoir accepté notre invitation.
Ben non, merci à vous de nous avoir invités.
Et puis, continuez votre bon travail. J'espère qu'on pourra se reparler en onde après la sortie du film, peut-être.
Mais avec plaisir.
D'accord. On va te faire faire une petite ligne de promotion pour Star Wars en direct. Tu diras... bonjour, ici Yannick Dubois, le producteur du fan film L'Ordre Sith, et vous êtes à l'écoute de Star Wars en direct. Est-ce que tu peux me faire ça?
On va essayer, ouais.
Deux secondes, que je stoppe la musique. Vas-y.
Bonjour, je suis Yannick Dubois, le chargé de production de L'Ordre Sith, et vous êtes en direct de Star Wars en direct.
C'est bon, excellent. Donc, reste en onde, nous on va passer à une petite pause musicale, et on va revenir avec... Ludovic qui doit attendre notre appel avec impatience. Donc, on revient après la pause à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars.
We live, don't you? Chez SimpleNet, vous obtiendrez pour un coût très raisonnable une vitrine publicitaire pour votre compagnie, un site web créé pour vous sur mesure par notre équipe de professionnels ou tout simplement un espace pour héberger votre site personnel. Les amateurs de jeux en ligne ne sont pas oubliés. Nous pouvons vous offrir des forfaits de bande passante très intéressants, de même que des solutions de serveurs préconfigurés clés en main. Rejoignez-nous au www.simpletribunalnet.ca.
Legends Action Figures, l'endroit par excellence au Canada pour vos figurines et produits dérivés de Star Wars. www.legendsactionfigures.com.
Toy Palace est le seul arrêt pour vos produits dérivés de Star Wars. Vous y retrouverez toutes les collections Hasbro de Power of the Force 2 jusqu'à la récente collection Original Trilogy, ainsi que de nombreux produits d'autres licenciés Star Wars tels que Atacus, Master Replica, Code 3, Gentle Giant. Branchez-vous et faites l'expérience de l'achat en ligne chez Toy Palace, le numéro 1 d'Europe pour les produits dérivés de Star Wars. www.toy-palace.com.
Re-bienvenue en ondes à Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars. Et on continue le sujet principal, mais cette fois-ci avec Ludovic Sioux, qui est l'initiateur de l'idée derrière le fanfilm Lord Rit et le responsable de l'association R2. Bonjour Ludovic.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Ça va bien?
Oui, je te remercie, ça va bien. Je suis très content de t'avoir au téléphone et de pouvoir enfin entendre ta voix, alors que jusqu'à présent, nos dialogues étaient un peu moins spontanés, vu que c'était soit par email, soit par forum interposé. Donc c'est très sympa de ta part de nous donner l'occasion de nous exprimer.
Pas de problème. Je commence immédiatement avec les questions. Comme tu es l'initiateur du projet L'Ordre Sith, je vais évidemment te poser la question, d'où t'es venue l'idée de faire un fan-film et... qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui a fait de l'Ordre Sith un projet concret?
Eh bien, en fait, l'idée est venue il y a environ 5 ans, alors que nous étions sur le salon du modélisme, avec une ancienne association dont je m'occupais également. On avait fait une petite mise en scène pour les caméras de France 3, où on avait mis en scène donc tout un tas d'éléments qu'on avait à notre disposition, à savoir certains décors grandeur nature, comme une motospeeder, et puis les costumes qu'on avait. Et donc cette petite mise en scène nous a donné l'idée, à l'époque, de nous lancer dans un projet similaire, qui était initialement nettement moins ambitieux. Il s'agissait simplement de réunir dans une seule et même production, enfin dans les mêmes projets plus exactement, un peu tout ce qu'on faisait à l'époque, c'est-à-dire des maquettes, des costumes, des accessoires, et essayer de mixer tout ça ensemble. Donc j'ai proposé ça à l'ensemble des adhérents de l'association, de R2, au tout début, dès qu'on l'a créé, parce que ça semblait être un projet qui permettrait à tout le monde de s'exprimer, en fait. Puisque on allait faire appel à tous les talents des fans qui nous côtoyaient, et, enfin que nous côtoyons nous, et pas seulement ceux qui avaient des costumes, mais également ceux qui étaient capables de faire des maquettes, ceux qui étaient capables d'écrire, ceux qui étaient capables de faire des décors. Enfin bref, ça permettait à tout le monde de s'investir autour d'un seul et même projet qui devait être fédérateur pour l'association, en fait.
Excellent.
Alors, l'élément déclenchant, disons, ce qui nous a permis de bien démarrer, en fait, ça a été l'arrivée de Olivier Couston, alias Dr. Jones, qui a été le premier élément concret de l'ensemble. C'est quelqu'un qui s'amuse à faire des modélisations 3D, de l'animation, et qui est très très performant dans son domaine. Il nous a permis de nous faire connaître parce que grâce à lui, on a commencé à avoir une première bande-annonce uniquement 3D, en attendant de mettre en place tous les éléments qui nous ont permis par la suite de commencer les tournages.
C'est excellent ça.
Donc, le premier élément concret.
Scénario, design, storyboard, casting, prospection, maquette et décor, l'univers étendu plus la co-réalisation. Est-ce que c'est pas un peu trop de travail pour un seul homme? Et puis, quel rôle pensais-tu occuper au départ?
Ben justement, si tu fais bien de le dire, c'est beaucoup trop de travail pour une seule personne. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui m'occupe de tout ça. Parce qu'en fait, j'ai lancé le projet, mais aujourd'hui, le projet est quand même avant tout le travail de toute une équipe. Et c'est quand même là-dessus que je pense qu'il faut nettement insister, à savoir que ce n'est pas du tout le fanfilm de Ludovic Hiou, mais c'est le fanfilm de l'équipe R2 qui regroupe tout un tas de personnes qui sont venues nous rejoindre au fur et à mesure et qui sont toutes très performantes dans leur domaine. Ce qui fait que bah, si on prend l'exemple du scénario, moi j'ai écrit l'ébauche du scénario, mais par la suite c'est avec Yannick Dubois avec lequel je viens de discuter, on a écrit ensemble le script proprement dit. Les designs, je suis l'auteur de quelques designs, mais pas de tous. Les storyboards, là, c'est pareil, on fait appel à des spécialistes, enfin des spécialistes. Plus exactement, il y a des personnes qui se sont proposées de nous rejoindre et qui sont capables de faire des storyboards de très bonne qualité. Et donc mon rôle, en fait, consiste plus à dispatcher le travail entre les différents intervenants et à m'assurer que de la cohérence de l'ensemble, je dirais.
D'accord.
C'est évident que je peux pas tout faire tout seul.
Tu as écrit le scénario. Quelles ont été tes inspirations pour l'histoire?
Eh bien, en fait, initialement, le projet était nettement moins ambitieux et devait donc utiliser tout ce qu'on avait à notre disposition, à savoir donc essentiellement les costumes et les personnages, les costumes des personnages assez classiques. Donc on devait retrouver dans mon tout premier scénario, on se retrouvait avec un énième clone de Vador et tout un tas de Jedi connus dans l'univers officiel. Et j'ai une amie qui s'appelle Gabrielle Zimmerman, qui a mis en évidence que ce genre de scénario ne fonctionnerait pas du tout parce que c'était soit un peu trop tiré par les cheveux, soit ça allait rentrer en conflit avec les sources de l'univers officiel étendu, de l'univers étendu officiel, pardon. Et donc, elle avait proposé de s'intéresser au pouvoir des Sith, en fait.
Mm-hmm.
Pourquoi les Jedi ne chercheraient-ils pas à utiliser eux aussi les pouvoirs des Sith? Donc on est parti sur cette idée-là, et à partir de là, on a commencé à chercher, et j'ai proposé cette histoire, et on l'a développée au fur et à mesure que des personnes nouvelles rentraient dans l'équipe. Le scénario était en constante évolution, en fait.
Excellent. Outre l'écriture, tu es un maquettiste à la base. Y a-t-il une pièce en particulier que tu as créée toi-même pour le film?
Oui, tout à fait. C'est un vaisseau Jawa, enfin un véhicule Jawa,
mm-hmm.
que j'ai appelé le Sandroller. C'est un véhicule qui s'inspire très fortement de l'architecture du Sandcrawler qui est bien connu de l'univers officiel Star Wars.
Mm-hmm.
Et c'est un véhicule articulé monté sur roues, non plus sur chenilles. Et donc j'en suis assez fier parce que là, pour tout ce qui est pour l'essentiel du design, il a été fait par moi. Et je suis parti d'une première ébauche en m'inspirant d'un véhicule qui apparaissait dans un jeu vidéo.
Mm-hmm.
Ensuite, on l'a retravaillé avec deux copains, avec Olivier Couston d'ailleurs, et à nouveau, et avec Olivier Cabourdin. On a modifié la deuxième ébauche que j'ai faite de ce véhicule, qui était beaucoup plus massif, avec des roues beaucoup plus petites. On a changé un petit peu ça, et finalement... le véhicule est devenu ce qu'il est actuellement et du point de vue maquette, je suis assez content de ce que j'ai fait, même si dans l'équipe il y a de plus brillants maquettistes que moi, notamment Thierry et Cécile Luissier qui nous ont fait de superbes maquettes également.
Excellent. Pensais-tu que ce fan-film t'occuperait à ce point?
Non, pour être franc, non pas du tout. Je pensais, c'est-à-dire que comme à la base... ça devait être quelque chose de beaucoup plus limité, beaucoup moins ambitieux. Je ne pensais pas qu'on passerait autant de temps et d'énergie pour faire tout ça. Il y a eu des périodes qui ont été très difficiles pour moi, parce que ça demandait beaucoup d'implication. Mais bon, aujourd'hui, c'est entre guillemets un peu plus simple parce qu'on est quand même nettement plus nombreux et il y a des personnes qui ont en charge toute une partie, comme Yannick et Stéphane avec lesquels tu as pu discuter. Mm-hmm. Et ça fait que moi, je n'ai pas à m'occuper de tout parce que sinon, ce serait absolument infaisable. J'ai quand même des responsabilités professionnelles et familiales et c'est pas possible de tout faire par soi-même.
D'accord. Quelle a été la responsabilité la plus difficile et quelle était la plus plaisante pour toi?
Ben, je dirais que ce qui n'est pas difficile dans un projet de cet ordre-là, c'est d'exiger quelque chose de quelqu'un, parce que le projet est totalement bénévole et repose sur la bonne volonté de tous les participants. Donc tu peux difficilement demander à quelqu'un qui propose son aide de terminer impérativement à une date définie un plan précis ou quelque chose comme ça. Donc il faut être assez diplomate, essayer de ménager la chèvre et le chou, comme on dit, pour faire en sorte que tout se passe bien, parce que c'est quand même normal, chacun a des projets autres et qui peuvent être donc également professionnels ou familiaux et qui peuvent passer bien avant le temps qu'on consacre au fanfilm. Donc il faut faire très attention à ça quand on est sur un tel projet. On ne peut pas se permettre de dire à quelqu'un de jouer au petit chef, en fait. Mm-hmm. Et donc assez délicat à faire.
D'accord.
Je dirais que l'activité la plus plaisante, c'est quand on est sur les tournages. Là, on s'amuse bien, on est tous en groupe et c'est une bonne occasion de se retrouver entre nous.
Super. Combien de gens ont participé au casting et quels étaient vos critères de sélection pour les différents personnages?
Alors, pour toute la partie casting, en fait, c'est plutôt Yannick qui s'est occupé de ça. C'est même essentiellement lui.
D'accord.
À mesure où l'essentiel des participants sont sur la région parisienne et moi, j'habite en Bretagne. Donc, ça fait que je suis à peu près à 350 km du gros des troupes. Et Yannick a eu la délicate tâche de s'occuper justement de recruter tout un tas de personnes. Mais je sais que les critères de sélection essentiels, c'était quand même le fait d'avoir un costume, et un costume qui plus est, qui soit de bonne qualité.
Mm-hmm. D'accord. Quelle serait ta plus grande fierté personnelle après la sortie du film? Quelque chose en particulier?
Je pense que ce que vraiment je souhaite par l'intermédiaire de Stanfilm, c'est qu'il puisse servir de tremplin pour certaines personnes qui se sont très fortement investies dans le fanfilm à titre personnel et qui travaillent actuellement dans le domaine du cinéma. Je pense à Vanessa Lafay en particulier, qui nous a permis de bénéficier de moyens techniques et personnels comme on ne pouvait même pas se l'imaginer au début, ou également Rémi Hoffman qui nous assure le montage du fanfilm, ou encore Nicolas Signac qui s'occupe des effets sonores. Ce sont des personnes qui sont particulièrement investies dans ce qu'elles ont fait, et si à titre personnel le fanfilm peut leur servir à titre personnel et professionnel, ça j'avoue que j'en serais très fier.
D'accord, c'est vrai que ça serait vraiment...
Oui, assez bon à citer.
Le site web de R2 semble abandonné pour l'instant. Est-ce que c'est parce que tous les efforts sont mis pour le fanfilm en tant que tel? Et est-ce que le magazine continue toujours à être publié?
Alors oui, effectivement, tu fais bien de le signaler. En fait, compte tenu de la charge de travail que cela demande de s'occuper d'une association proprement dite, et du site en particulier... tous les efforts ont été portés vers le fanfilm en délaissant effectivement le site proprement dit R2 et les activités liées aux sorties, étant donné que de toute façon il y a la Ligue Costumée Francophone dont la plupart d'entre nous font partie et dont Pascal Ampoulier est l'un de ses plus brillants représentants et il fait partie également de l'équipe du fanfilm. Mm-hmm. Et donc eux s'occupent aujourd'hui spécifiquement des sorties parce qu'ils sont sur Paris pour la plupart, et moi étant trop loin de ces activités, j'ai pas pu continuer à m'occuper de ça pleinement. L'activité fan film, je peux la faire, m'en charger essentiellement par email, et donc j'ai pas besoin d'être nécessairement sur place pour tout un tas de choses, alors que pour bon nombre des activités liées à l'association proprement dite, ça n'est pas la possibilité de le faire en étant trop loin. Ce qui fait que le magazine, pour l'instant, il est resté un peu en stand-by. Mm-hmm. La publication proprement dite sous forme de papier, elle va s'arrêter en fait parce que je n'ai pas souhaité continuer de demander à les adhérents une cotisation pour en participer à l'édition de ce fanzine. Mm-hmm. Et que la prochaine version qui verra le jour sera sous forme de fichiers PDF qui seront en téléchargement libre. Sur le site R2 ou sur le site Fanfilm, sur l'un ou l'autre. Ça n'a pas encore été décidé.
D'accord. OK. Est-ce que tu as quelques anecdotes intéressantes sur le tournage ou la production en tant que telle?
Les anecdotes, en fait, on en a beaucoup parce que on fait chaque séance de tournage, on en profite pour faire pas mal de petits gags entre nous. Ce qui fait que ça fait qu'on se retrouvera avec un making-of comprenant pas mal de petits délires personnels. Mais une anecdote, amusante, enfin, ça, c'est peut-être pas forcément un bon souvenir pour moi. Ça a été le premier tournage officiel qui s'est déroulé maintenant il y a un an et demi. Et Bien qu'étant arrivé avec plein de motivations personnelles, j'étais pas totalement au point et c'était ma première expérience de tournage. Mm-hmm. Pas franchement évident. On s'imagine bien souvent que c'est tout simple de se mettre devant une caméra et de jouer devant. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et il y avait certaines de mes répliques que je ne connaissais pas. Et ce qui fait que on a utilisé une sorte de prompteur en fait pour les chants contre chants ou où je me contentais de lire mon texte pour le sortir plus facilement parce que c'était quand même une expérience assez stressante. Bon, heureusement, ça ne se voit pas à la caméra, mais c'était assez amusant.
Je ne savais même pas que tu étais un des acteurs du film. Est-ce que tu peux nous dire quel personnage tu joues?
Le personnage du Jedi Turon.
D'accord.
Jedi Turon. Et j'en dis pas plus sur son avenir parce que je préfère laisser le soin aux personnes, aux internautes ou aux autres spectateurs sous une forme ou une autre de découvrir ce qu'il advient de ce personnage.
Bien entendu. Est-ce que tu as d'autres projets prévus pour après l'ordre site?
Oula, bonne question. Là, actuellement, je peux vraiment pas répondre parce que j'aurais certainement plus de projets personnels que associatif. Mm-hmm. Ça m'a pris, ça fait à peu près plus de 3 ans qu'on travaille sur le sujet. Mm-hmm. Malgré tout, il commence à y avoir une certaine lassitude par moment, et donc après, je compte pas laisser tout tomber parce que ce serait dommage. Mais mon implication sur bien des domaines sera nettement moindre, et mes projets seront plus des projets personnels. Notamment, ça fait des années que je travaille sur une maquette de l'Exécutor, le vaisseau de Dark Vador, différentes échelles, et là j'ai pratiquement terminé une version montée de 58 cm qui fait fureur quand je place des photos sur différents sites spécialisés dans le domaine du maquettisme. Mm-hmm. Donc j'aimerais en proposer une version en kit résine, et pour l'instant je suis en train de... J'ai quelques éléments à terminer de cette maquette-là, et après je m'occuperai de voir pour sortir la version en résine.
Et peut-être continuer à écrire d'autres
histoires. Personnel.
Et peut-être continuer à écrire d'autres histoires.
Alors ça, oui, j'espère, mais pour l'instant, c'est plus le temps qui me manque, parce que au début, quand le projet a commencé, j'avais qu'un seul petit garçon. Maintenant, j'en ai deux et bientôt trois. Ça fait que le temps n'est pas extensible à l'infini, et tout ça prend également beaucoup de temps. Donc,
Merci beaucoup, Ludovic, de t'avoir prêté à notre questionnaire et J'espère qu'on va avoir encore l'occasion de te parler après la sortie du fanfilm Lord Resith.
Ben, j'espère ne pas décevoir qui que ce soit. Je tiens quand même à préciser que malgré certaines ambitions qu'on semble afficher, nous n'avons pas pour la prétention de chercher à rivaliser avec une vraie production.
Mm-hmm.
Ce qu'on fait avec Lord Resith, ça reste quand même dans le domaine du fanfilm, donc un film amateur. Et quel que soit ce qu'on fait, on ne pourra pas souffrir de la comparaison avec une vraie production.
Mm-hmm.
Malgré tout, on cherche tous à s'investir autant que possible dans tous les domaines. Et j'aimerais juste revenir sur quelque chose qui me tient un petit peu à cœur. J'entends parfois parler de budget, de fanfilm à gros budget ou de fanfilm à petit budget.
Mm-hmm.
Je trouve que le terme est un petit peu usurpé dans le sens où il est difficile d'attribuer un budget pour Lord Resith. Si on tient compte de l'investissement personnel de chaque personne, on arriverait à des sommes absolument astronomiques. Maintenant, si on tient compte de ce que nous avons vraiment dû payer pour la réservation de certains lieux de tournage ou ce genre de choses, on atteint des sommes tout à fait raisonnables. Ce genre d'activité reste une passion qu'on souhaite nous faire partager avec toutes les personnes qui souhaiteront voir ce qu'on aura fait, mais c'est sans prétention de notre part, et c'est surtout pour montrer que c'est l'œuvre d'un groupe de fans, un groupe d'amis, et montrer que les fans de Star Wars sont autre chose que les 12 illuminés qu'on a tendance à montrer, à savoir que bien souvent on tourne les fans de Star Wars en dérision à l'occasion de leur rassemblement en montrant des fans déguisés un petit peu débile, je vais dire.
Mm-hmm.
J'aimerais que le fanfilm qu'on aura montré, qu'on aura fait, soit l'occasion de montrer que les fans sont capables de faire vraiment des choses tout à fait dignes d'intérêt. Voilà.
Bon, mais je te remercie beaucoup, Ludovic. Et puis, je vais sûrement communiquer avec toi par email et on se recidulera une rencontre à l'émission.
Pas de problème. Écoute, je te remercie beaucoup. Et puis, bonjour à tous les fans québécois et canadiens également.
Merci beaucoup. Voilà. À la prochaine.
Allez, au revoir.
Et voilà. Ceci conclut notre sujet principal pour aujourd'hui. Je crois que c'est notre plus grosse entrevue quand même en durée. Donc, maintenant, je pense qu'on va aller une petite pause musicale. Parce que j'ai soif un peu, là. Donc, on va aller écouter. Je cherche ma playlist.
C'est pas moi qui l'a,
non? D'accord, elle est ici. Donc, on rappelle l'ordre site www.ordresite.com. ordresite.com. Si vous voulez vous impliquer, communiquez avec Yann, au commercial. ordresite.com ou lud@ordresite.com. Il y a des forums pour laisser vos questions, etc. La majorité du forum est réservée au staff qui participe pour les différentes parties du film. Et puis, qu'est-ce que tu fais là? Oh, Obi-Yan?
Nul autre que le prop master Uncle.
Okay. Est-ce qu'on revient après la pause?
On va venir après la pause.
D'accord. Donc, je me suis perdu encore une fois. Ça arrive. Donc, on revient après la pause de Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars. We'll be right back.
Hi, this is Michael Sheard, Admiral Ozzel from The Empire Strikes Back, and you are listening to Star Wars on Direct.
Et re-bienvenue à Star Wars en Direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars. On a maintenant en ondes, Pascal Ampoulier. Aussi et connu ça. Sous le nom de Arcos. Bonjour Arcos.
Comment ça va?
Ça va bien?
Ça va très bien.
Oui, tu avais des commentaires à laisser par rapport à l'autre site.
Oui, quelques commentaires, notamment à propos de Yannick, parce que j'ai eu la chance donc, de voir tout ça de l'intérieur.
Mm-hmm.
Et je peux dire que Yannick a apporté le film pour la logistique de façon assez hallucinante.
D'accord.
C'était assez monstrueux à gérer et il s'en est sorti comme un chef, quoi. Personnellement, je me dis que si un jour je veux faire un petit court-métrage ou quelques séquences comme ça, je prendrai vraiment exemple sur son travail parce que c'était assez hallucinant, quoi.
Super.
Voilà.
Il va sûrement être content d'entendre tes commentaires.
Oui, je voudrais que lui a été très sympa avec moi parce que pour les accessoires, en fait, je les ai souvent fournis assez en retard et j'ai pas pu les travailler comme j'aurais dû, en fait.
Mm-hmm.
Mais c'est vrai que c'est impressionnant de voir quand on arrive sur place, toute la logistique qui se met en route. Sur le tournage, chacun sait ce qu'il a à faire, tout se met en route naturellement, on va dire. Et c'est assez impressionnant quand on n'a pas l'habitude, quoi.
Et ta quantité de travail pour l'ordre site se chiffre en combien d'heures jusqu'à présent?
C'est assez minime. En fait, j'ai vraiment un rôle minime. C'est-à-dire que les objets que j'ai fabriqués sont utilisés dans des séquences de premier plan, quoi.
Mm-hmm.
Mais comparé aux infographistes ou aux gens qui ont fait les costumes, je sais pas, j'ai dû peut-être faire que 3-4 sabres, des lames qui vont avec, 2-3 objets qui apparaissent à droite à gauche. J'ai un travail assez mineur dessus, en fait.
D'accord. Et puis, est-ce que tu anticipes grandement la sortie de ce fan-film?
Ouais, tout à fait, parce que pour être honnête, quand le projet a démarré, en fait, j'avais proposé mon aide, mais j'étais pas vraiment dedans, quoi.
Mm-hmm.
J'ai regardé ça un peu de loin, et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à réaliser que ça allait prendre une importance bien plus grande que ce à quoi je m'attendais. Hein. Et quand j'ai vu, par exemple, les animatiques, tout ça, c'était, je pense, ça m'a halluciné. Et en fait, le projet a pris de l'importance un peu comme une boule de neige, si vous voulez.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que plus ça allait, plus des choses étaient montrées sur Internet et plus les gens, naturellement, proposaient leur aide. Tout simplement parce que le travail des premiers ont impressionné les suivants et que ça a motivé les gens, quoi.
C'est excellent. Donc, merci de tes commentaires. On espère que tu vas revenir à l'émission un peu plus souvent, n'est-ce pas?
Tout à fait. Je l'espère aussi.
Bon, mais merci encore, Arcos, pour tes commentaires.
Merci à vous.
Merci, à la prochaine. Voilà. Donc, maintenant, qui on téléphone?
Nul autre que le maître de chorégraphie.
Guillaume Kress.
Pardon.
Je ne sais pas s'il faut le prononcer comme ça. Et on fait ça en direct, mesdames, messieurs. J'entends des... Il y a beaucoup de chiffres ici.
Longue distance en Europe.
On attend le... Et voilà.
Allô?
Bonjour Guillaume, s'il vous plaît.
Oui, c'est moi.
Bonjour Guillaume, c'est Danny de Star Wars en direct.
Oui, bonjour.
Ça va bien?
Oui, vous?
Oui, tu voulais nous laisser des commentaires par rapport au, à toute la séquence de chorégraphie, etc., que tu as fait pour l'ordre site.
Oui, il y a Yann, oui, c'est Yann qui vous en a parlé.
Ouais.
Sur le site, parce que j'ai écouté, j'étais en direct sur net, j'ai écouté à peu près ce qu'il disait.
Et puis, combien d'heures de préparation est-ce que ça t'a pris pour vraiment penser à la chorégraphie, etc., le nombre d'heures de pratique, etc., pour que ça soit bien, bien synchronisé?
En fait, c'est pas le nombre d'heures, je pense qu'on avait une idée à peu près tous de la chorégraphie qu'on voulait. On voulait un style, en fait ça dépend des chorégraphies, mais le combat par exemple qu'on a tourné en Bourgogne, c'était le dernier, c'était il y a 3 semaines, 1 mois.
D'accord.
C'était un peu, on avait déjà l'idée de la chorégraphie, on avait, en fait on l'a fait un peu plus sur place en fait. Quand on a vu le décor, on a vu l'espace qu'on avait, on a géré avec ça, avec Yann et Vanessa.
Mm-hmm.
Et puis après... j'ai fait ceinture noire de kendo comme Ray Park qui est du Dark Maul.
Mm-hmm.
Je voulais un style un peu un peu entre kendo et scream, pour faire un peu un mélange entre les deux trilogies.
D'accord.
Et puis en fait ça s'est fait, on a donné un peu un style à Yannick qui joue méchant, qui est plus expérimenté que Vanessa qui joue une padawan.
Mm-hmm.
Et on a donné donc un style un peu comme le Comte Dooku, Dark Vador pour Yann, et un style plus Obi-Wan dans l'épisode 1 pour Vanessa, c'est-à-dire un style rapide, fluide, et pour Yann, quelqu'un qui minimise un peu ses mouvements au sabre, qui le tient au départ qu'à une main, pour montrer quand même que c'est un maître,
mm-hmm.
un maître site. Et puis voilà, après, à partir de ça, avec l'espace et ce qu'on avait en tête, on a construit une chorégraphie, j'ai essayé de donner des repères, des distances entre les deux acteurs, c'est surtout ça en fait. J'ai plus aidé puisqu'ils avaient, j'ai essayé de donner des gestes, des techniques, déjà pour Vanessa, pour ses poignets, parce que c'est pas contraire, mais c'est une fille et... Il faut faire attention à ses poignets. C'est plus des recommandations, en fait.
Mm-hmm. Les combats de sabre, inévitablement, il va y avoir peut-être des petites blessures. Est-ce que vous en avez eu pendant les pratiques, etc.?
Personnellement, oui, puisque quand on a tourné, une petite blessure, je me suis pris un sabre dans la figure pendant le tournage.
Ouch!
C'est-à-dire, on était à Fontainebleau, et c'est le combat que disait Yann à 4.
Mm-hmm.
On était... au départ, c'est un combat entre deux, et puis après, on se bat à quatre. Au départ, le combat contre deux, je me retourne, et je dois arrêter un sabre en même temps que de me retourner. En fait, le sabre, l'autre acteur qui était avec moi a donné un coup un peu plus fort que d'habitude, et en fait, j'ai pas réussi à bien le bloquer, je me suis pris le sabre dans la figure. Vraiment des blessures, non. Je crois qu'on a fait tous à peu près attention aux forces qu'on mettait dessus pendant les combats.
D'accord. Ben merci de tes commentaires. Est-ce que tu as d'autres commentaires par rapport aux producteurs ou à tous ceux qui ont dirigé ce fanfilm jusqu'à présent?
Oui, parce que ça fait même pas un an que je suis sur le film, parce que je les ai rencontrés au CRDV dernier.
Mm-hmm.
Ça va faire bientôt un an. Au départ, je connaissais juste quelques-uns, et puis à force de discuter avec eux et de tourner, de les rencontrer, c'est vraiment, il y a une bonne entente sur le film, que ce soit avec tout le monde. Moi-même, je rentre dans une école de cinéma et j'aspire à devenir réalisateur, et ça a été une expérience pour moi. Déjà de voir un tournage et de participer à un tournage, je pense que le film va être tout simplement bien. On est vraiment l'esprit Star Wars, et je crois que c'est ça qui en ressort dans le film, un bon esprit de groupe et l'esprit Star Wars.
Bon, ben, je te remercie beaucoup. Oh, une question de Sébastien?
Alors, dis-moi, Guillaume, quand tu as fait les chorégraphies, premièrement, est-ce que tu les écrivais?
Non, je les imaginais plus dans ma tête, en fait. Pour le combat de Yann et Vanessa, ils m'ont dit à peu près ce qu'ils voulaient, l'ambiance, l'histoire, l'ambiance du combat. Et à partir de là, dans ma tête, j'imaginais la chorégraphie, ils disaient le lieu, donc moi j'imaginais dans ma tête le lieu, Et en fait, je les écrivais pas parce qu'une chorégraphie, ça s'écrit pas, ça s'apprend plus. En fait, c'est comme une, c'est comme de la danse, je dirais. Si je peux comparer à de la danse, c'est on apprend une chorégraphie et puis on la fait.
Excellent. Donc, une autre question?
Une autre question. Mmh. Les chorégraphies vont être d'une durée de combien de temps environ dans le film?
Je sais que notre chorégraphie qu'on a tournée pour l'Académie Jedi avec les quatre, ça doit durer 20-30 secondes. Et celui du combat entre Yann et Vanessa, il doit durer peut-être 1 minute 30. On avait prévu 2 minutes au départ, mais...
C'est long avec.
C'est déjà assez bien. Mm-hmm. Mais je crois que ça dépend du montage, mais normalement, il devrait durer à peu près... Parce qu'on a passé toute une journée rien que pour ce combat-là. Et arrivé, je crois qu'il était... 9h du matin, on a dû repartir à 17h le soir et on a tourné que le combat.
D'accord.
C'est pour vous dire le nombre de minutes de pellicule qu'on a pour rien que pour ce combat-là, quoi. Et je pense que ça dépend du montage, mais il devrait durer entre 1 minute 30 et 2 minutes.
D'accord, ben merci beaucoup. Et puis, on espère que tu vas revenir écouter l'émission de temps à autre pour d'autres sujets Star Wars, n'est-ce pas?
Il n'y a pas de problème. Hein. Je trouve ça assez sympa d'ailleurs de regrouper un peu comme ça, c'est pas mal.
Bon, ben merci beaucoup.
Ben, merci à vous.
À la prochaine.
À la prochaine, au revoir.
Donc, on appelle maintenant Obi-Yan. Il a été figurant dans l'ordre site. Je crois que c'est dans les cockpits. Donc, Sébastien propose. On l'a pas averti, j'espère qu'il... C'est quoi son vrai nom? C'est Yann?
Yann. Qui nous écoute présentement.
Allô, oui?
Oui, Yann, s'il vous plaît.
Oui, ben, c'est moi.
Bonjour, Yann, ça va bien?
Oui, et toi?
Oui, ça va. Donc, toi, tu as été figurant dans l'ordre site. Raconte-nous un peu l'ambiance sur le plateau et qu'est-ce que tu as fait comme rôle de figuration dans le film?
Ben, en fait, ça serait pas plutôt le, ça serait plutôt les.
D'accord.
Jusqu'à maintenant, en tant que figurant, j'en ai fait deux.
OK.
À part le gros, j'ai eu une phrase ou deux à dire, c'était sur le tournage du cockpit.
D'accord.
A dit tout à l'heure Yannick.
Mm-hmm.
Sinon, en fait, les deux rôles en fait que j'ai eu en tant que figurant sont la scène du des bastons de Tatooine,
mm-hmm.
fait pour la cantina, où je jouais un ancien impérial qui s'est réformé sur le chasseur de primes.
D'accord.
Donc en fait, j'avais à ce moment-là un costume, mon costume de scout biker.
Mm-hmm.
Donc j'ai essayé de rester un peu dans le visuel. J'ai pris un peu exemple sur Boba Fett. Donc j'avais un poncho à ma disposition et en fait, je l'ai accroché après mon épaule droite, si je me souviens bien. Enfin bon, c'est pas vraiment le truc que je me souviens vraiment. Sinon après, c'était Jedi principalement. Dont le tournage à la forêt de Fontainebleau.
D'accord.
Et dont un où j'avais un peu du... On était 3 ou 4 à avoir tourné à ce moment-là. C'était peut-être une partie du film où c'était peut-être plus où j'avais des mouvements physiques à faire,
mm-hmm.
au niveau du sabre, qui était la charge mandalorienne à bord du Jade, qui a été tournée au... À la sortie, dans les arcades du quand on sort de l'astroport du Starspeeder 3000 à Disney,
mm-hmm.
donc qui avait été tourné à Halloween, je pense que c'est peut-être la scène la plus physique que j'avais eu à voir au niveau des mouvements des sabres, parce que d'une part, fallait essayer d'imaginer d'où provenaient les tirs des blasters, en fait.
D'accord. Et puis, décris-nous un peu l'ambiance sur le plateau avec tous les autres fans et les participants au fan film.
Bah l'ambiance en fait à chaque tournage en fait c'est à chaque fois une nouvelle expérience. Donc mais l'ambiance est tout le temps la même. Donc on s'entend tous bien. Des fois il y a peut-être des choses à imaginer plus que d'autres. Donc en fait on voit entre nous ce qu'on peut faire, mais c'est une ambiance, une très très bonne ambiance qui règne à chaque fois qu'on fait un tournage sur tel ou tel lieu comme Fontainebleau, le Catabar ou ailleurs, quoi.
D'accord.
Ça a été, je pense, une joie de tourner, de participer à ce film-là.
Exactement. Est-ce que tu as eu la chance de rencontrer Yann? J'imagine que oui.
Bah, Yannick, oui, bah oui, ça c'est obligé de toute façon. Oui, à chaque fois, oui, c'est sûr. Donc, bah oui, oui, à chaque fois, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Donc, bah, la scène, bah, à chaque fois où on tournait, quoi.
D'accord.
Voilà, quoi.
Donc, ben merci d'être à l'écoute et puis on va se revoir assurément, j'en suis certain, pour d'autres émissions. Donc, merci de tes commentaires.
D'accord. Ben, je te dis à tout à l'heure pour la section events à ce moment-là.
Parfait. Ah, tu avais aussi un petit événement qui s'en venait, il me semble.
Ben oui, c'est qui a lieu, donc on est le dimanche, si je me trompe pas, on est combien, je ne sais même plus du coup.
Oui, on est dimanche.
Donc oui, bah en fait, oui, on a donc en fait, je sais pas si je le dis maintenant ou pas, donc
oui, vas-y, en fait, vas-y
en
maintenant.
Fait, donc le site de Boutil, donc comme Seb l'avait annoncé à la dernière émission, organise en fait pour inaugurer le site une sortie le 18 août sur Disneyland Paris.
D'accord.
Qui a pour but en fait de l'inaugurer d'une façon ou d'une autre. En proposant donc cette sortie pour en fait la sortie du DVD du film The Animation et 999 fantômes,
mm-hmm.
rapport avec l'attraction. Et donc en fait la journée donc commencera pour enfin en fait nous on partira peut-être un peu plus tôt parce que en plus j'ai vu la météo il y a un instant, c'est pas fameux.
D'accord.
Je pensais qu'il ferait beau mais en fait il va pleuvoir, donc ça va être pas très agréable mais bon tant pis hein. Et donc en fait nous on partira donc sur le coup des 7h, qu'on soit là-bas sur le coup des 7h30, 8h15.
Mm-hmm.
Donc en fait les personnes qui souhaitent venir, que ce soit le clan, la LCF ou la 501, donc je sais que ceux, pour ceux qui entendent, s'ils veulent participer donc à cette sortie, donc en fait le regroupement sur Disney se fera entre 8h et 8h15. Donc comme ça, nous, ça nous permettra pendant le petit quart d'heure, entre 8h15 et 8h, de planifier un peu le parcours qu'on fera dans le parc.
D'accord.
Et l'heure du repas. Donc ensuite, on se dirigera. Donc en fait, le lieu de rendez-vous, c'est au niveau du Central Plaza Garden. Donc pour ceux qui ne savent pas vraiment, pour que je situe à peu près, c'est à l'entrée donc du parc, au niveau des fontaines, il y a le grand encerclage fleuri avec la tête de Mickey, pour ceux qui veulent savoir. Donc après, donc tout le long de la sortie, il y aura donc le matin, donc je citerai le parcours une fois que tout le monde sera arrivé, en espérant qu'on arrive à faire tout ce parcours-là en une matinée. J'ai appris de ma part que le Disneyland, apparemment au mois d'août, est pas trop rempli au niveau des visiteurs, donc on aura plus de facilité à faire les attractions, donc ça nous fera gagner du temps. Sinon, pour annoncer quelque chose que j'avais pas annoncé sur le mail que je vous avais envoyé la dernière fois, le rendez-vous pour mardi, donc après-demain, à 15h sur les Champs-Élysées, donc en face du Disney Store, pour pouvoir aller chercher les billets, comme ça nous fera gagner du temps mercredi sur le parc. Ça nous évitera de bouffer du temps sur l'achat des billets. Et donc mercredi, la soirée se terminera sur les coups des 23h, puisque le parc en heure d'été ouvre à 9h et ferme à 23h.
D'accord. Est-ce qu'il y a un site web où est-ce que toutes les informations sont situées?
Alors, donc, les infos sont situées donc sur le site, donc sur mon site. Donc, je vais mettre le lien sur le chat tout de suite.
D'accord, mais tu peux le dire en onde aussi?
Oui, donc, alors je ne me trompe pas. C'est donc alors http://boot-il.site.voila.fr.
D'accord.
Donc je vais quand même le mettre sur le chat pour ceux qui sont intéressés. Donc le forum se trouve donc dans les infos se trouvent dans la partie du forum communauté de Boutil au niveau des sorties events. Et donc, toute info y est marquée, donc, le regroupement pour l'achat du billet et le regroupement pour mercredi matin pour le parc.
Bon, ben, je te remercie beaucoup, Yann.
Oui, d'accord.
Alors, on se revoit à une prochaine émission.
Ben oui, à la prochaine.
Et merci beaucoup.
Allez, salut, bye.
Bye. Et ça va terminer l'émission, je crois.
On va quand même faire la petite...
La
petite chronique... Rencontre événement.
D'accord.
Je vais attendre. Congo. Alors, bien entendu, n'oubliez pas l'événement d'Obian qui va avoir lieu le 18 août prochain. Vous pouvez aller au boot-hill.site.voila.fr pour plus d'informations. On invite aussi tous les fans de Star Wars de Montréal, ainsi que les fans de Ian Holm et Natalie Portman, à se joindre à nous lors de la première du film Garden State qui va avoir lieu jeudi le 19 août. À l'AMC de Montréal.
Est-ce qu'on a des billets?
Alors, nous avons quelques passes de disponibles. Il est très important que vous nous envoyiez un courriel à studio@sw-en-direct.com.
Oui.
Pardon. studio@sw-en-direct.com. Et assurez-vous de pouvoir assister à la première à compter de 6 heures, d'être sur place au Forum Pepsi, métro Atwater. Et nous verrons à vous recontacter pour vous dire si vous avez ou non reçu, si vous allez aller ou non avoir une passe de réservée pour vous. Les passes sont pour deux personnes, donc mentionnez le fait que vous serez seul ou accompagné, car c'est important. Essayons d'avoir le plus de fans possible à ces premières.
Donc, ça complète ta chronique?
Ça complète ma chronique.
Je savais même pas qu'on allait voir ce film-là officiellement.
Bonne surprise.
Il faudra que je me prépare. Mentalement et au travail. Donc, la prochaine émission, comme je vous ai dit, maintenant ça va être une fois par mois. Donc, la prochaine émission devrait être le 12 septembre seulement. Donc, si vous en voulez plus régulièrement, ben allez sur le forum de Citlan au Topic où est-ce que nous sommes à la recherche de nouveaux animateurs pour compléter l'émission manquante. Et puis, en nous contactant, on va pouvoir faire des tests avec vous. Ensuite, ce soir, l'émission anglaise qui est à 19h heure de l'Est au Québec, qui est consacrée complètement à la 501e. On va interviewer le fondateur de la 501e aux États-Unis. Aussi, on remercie nos commanditaires, comme à l'habitude, Citlan.net, Legend Action Figures, Toy-Palace.com, Simple-Net.ca. Nos partenaires Star Wars Galaxies France, Fan Wars en Belgique, la Ligue Costumée Francophone, Star Wars Universe qui viennent d'avoir leur nouvelle version, R2D2 Menace, Roger One, Kamui Web, Anakin Web, Anakin World, Star Wars Connection, Mosum Bras Vegas, Star Wars Federation et Star Wars en France. Tous les liens sont bien entendu disponibles sur swendirect.com. Vous avez une fenêtre qui vous saute à la figure, donc c'est à cet endroit-là. Ensuite, tous les liens sont, nous rappelons à nos partenaires qu'ils peuvent nous envoyer un communiqué concernant leur sortie de fan, comme d'habitude, pour que nous puissions les mentionner en nom. Donc, comme OBN le fait, si vous avez une activité de fan, juste à nous les communiquer et on va les mentionner en ondes. Si vous avez des commentaires ou suggestions de sujets, écrivez-nous à l'adresse studio@sw-en-direct.com, studio@sw-en-direct.com ou dans le forum de Citlan.net, dans le forum spécifique à Star Wars en direct sous le topic commentaires et suggestions. Laissez ça à cet endroit-là. Je vous rappelle que si vous aimez l'émission, ben, parlez-en autour de vous. Le bouche-à-oreille est la meilleure publicité que l'on peut avoir de la part de nos auditeurs. Sur ce, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars, et on se revoit dans un mois. À la prochaine.
Cette émission vous a été rendue possible grâce à SimpleNet. Que vous soyez webmestre, joueur en ligne ou administrateur de serveurs de commerce électronique, chez SimpleNet, nous aurons toujours une solution pour répondre à vos besoins.
Vous étiez à l'écoute de Star Wars en direct.
surveillez StarWarsOnDirect.com pour connaître la date de la prochaine émission. Legends Action Figures, l'endroit par excellence au Canada pour vos figurines et produits dérivés de Star Wars. www.legendsactionfigures.com.
Toy Palace, une seule arrêt pour vos produits dérivés de Star Wars. Vous y retrouverez toutes les collections Hasbro de Power of the Force 2 jusqu'à la récente collection Original Trilogy, ainsi que de nombreux produits d'autres licenciés Star Wars tels que Atacus, Master Replica, Code 3, Gentle Giant. Branchez-vous et faites l'expérience de l'achat en ligne chez Toy Palace, le numéro 1 d'Europe pour les produits dérivés de Star Wars. www.toy-palace.com.
Cyclan.net, c'est les toutes dernières actualités sur l'univers Star Wars. Plusieurs dossiers sur la saga. Des événements et rencontres entre fans. Un énorme forum de discussion. Une radio web à contenu 100% Star Wars, incluant une ligne ouverte en direct. Plusieurs concours ouverts au Québec et en Europe. Et bien plus encore. Ne résistez pas à la tentation du côté obscur. Cliquez sur le www.cyclan.net.
Sir, if you'll not be needing me, I'll close down for a while.